Stop la musique. Bienvenue. Bienvenue à tous. On sent le coup de peigne léché dans les cheveux. Hein? C'est quoi un coup de peigne léché? C'est un peigne que littéralement tu lèches avant de te le passer dans tes cheveux, comme un effet un peu pento, glossy, brillant, je ne sais pas. Bienvenue, c'est reparti. On va parler de ce sommaire tout d'abord, hop, que je vous montre sur TikTok aussi. Regardez ce sommaire. Regardez ce sommaire. Les amis, on va... Cette chaîne ne cesse de step up. Hein. Pendant presque 5 ans, on a fait une revue de presse sans sommaire ici. C'est-à-dire que les gens arrivaient dans le chat. Oui, mais quand est-ce que tu parles de ça? On avait parlé il y a une heure. Mais quand est-ce que tu parles de ça? On en parle dans une heure. Mais est-ce que tu as parlé de ça aujourd'hui? Oui. Les modos étaient épuisés. Donc, à la rentrée, j'ai mis en place un petit sommaire, vite fait, écrit avec des petites lignes toutes blanches, sur fond gris. Bon, voilà. C'était bon. Qui a eu un certain succès. Mais bon, en termes de développement, c'était pas terrible. L'ami Ronny Fleur de Paix, que je salue, je sais pas s'il est avec nous ce matin, nous a fait il y a une dizaine de jours, m'a envoyé un petit sommaire magnifique qu'il avait dev lui-même. Voilà. Et qu'on a mis en place. Mais ce faisant, j'apprenais que. Le journaliste que je suis essaie de rester bien informé, que l'ami Boubou que nous connaissons tous dans la commu, lui aussi travaillait sur un sommaire. Un sommaire de fou. Un sommaire comme un feu d'artifice de 14 juillet. Voilà. Avec l'aide d'ailleurs d'une viewuse que je vais saluer qui s'appelle Wayuki, je prononce bien. Voilà, Boubou Wayuki. Et ça donne ça. Voilà. Alors cette... Il est là, Boubou. T'as vu, Boubou, j'ai toutes les infos. Hein. Et alors, c'est un sommaire qui en fait plein de choses. Bon, d'abord, qui est très lisible. Il est beau. Voilà. Comme cette commu. Ouais, il est beau. Il est lisible. Il indique... Bon, les titres, bien sûr, et l'actu qu'on va évoquer, c'est le principe d'un sommaire. Mais il indique aussi les journaux dans lesquels se trouve l'article. Comme ça, vous pouvez le chercher éventuellement après. Et normalement, il y a aussi des TC qui doivent se mettre en place, des time codes. Alors, du coup, je voulais vous en faire la surprise, puis du coup après je me suis dit, mais le TC il part quand, donc je l'ai lancé, là on va voir ce que ça va donner, et je vais vérifier que ça correspond à peu près au TC de mon live, mais j'ai peut-être un décalage de quelques secondes ce matin, on verra, voilà. Et après en fait je peux envoyer ça comme ça à Vincent qui s'occupe du podcast, puisque désormais la revue de presse est un podcast audio tous les jours à partir de 15-16h, et normalement il a les titres et il a les TC, quoi. Le truc est super bien fait. Voilà, juste à faire un copier-coller le matin et indiquer les journaux. Ça a la gueule, hein? C'est beau, hein? Comme vous. Voilà. Comment ça va, vous? Rimec me dit, alors Samuel, ça donne quoi Skyrim? J'ai pas regardé hier. Formidable. Hier, l'ami Alderiat était avec nous dans Simplay. Adorable. Hyper gentil. D'une patience, d'une pédagogie infinie. Avec le vieux gamer, voilà. et il nous a fait découvrir Skyrim. L'attente était grande, l'attente n'a pas été déçue. Voilà. Alors, quand je dis l'attente était grande, oui, on pouvait y loger facilement 6 à 8 personnes, c'était une très grande tente. Et on n'a pas été déçus par l'attente. Confortable, aéré, protégeant de la pluie, du froid, du chaud, voilà. Donc l'attente a été formidable, et pas déçue, et le jeu est incroyable, voilà. Et donc ce soir, le live gaming de ce soir à partir de 20h30, à peu près, ce sera du Skyrim. Hein. Bien sûr, je pense qu'il faut explorer ce jeu. Ce jeu... Hein? Bonjour, il est tombé du lit, lol. Voilà un habitué de la chaîne. Ça fait littéralement 5 ans qu'on fait des revues de presse le matin. Là, je suis en retard, je suis à 10h16 et je suis tombé du lit. Ah bah dis donc, tu connais bien la chaîne, mon chouchou. Voilà, c'est toi qui es tombé du lit, oui. Victor Riamus. C'est quoi? Mais 325 messages, donc tu connais parfaitement la chaîne. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est ivre. 325 messages, tu connais parfaitement la chaîne et tu dis il est tombé du lit. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, il faut jamais parler avant de savoir. Max Hanson écrit « Bonjour, Marseille contre le narcotrafic. Tu t'intéresses à ce sujet, tu as bien raison, c'est une catastrophe. Quelle blague, surtout la promo des politiques. Mais tu ne sais pas encore ce qu'il y a dans l'article. Et Marseille contre le narcotrafic, ce sont les Marseillais qui se mobilisent. Les Marseillais et les Marseillaises qui manifestent dans la rue, y compris ceux touchés dans leur chair, dans leur famille. Voilà. Donc évidemment, toi, tu ne vas pas vouloir te moquer d'eux. Et donc, tu vas pas dire quelle blague. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu le contenu de l'article. Ah! Méfiez-vous des titres. Les titres, c'est quelques mots pour résumer des pages et des pages. Un titre ne résumera jamais une actualité et jamais le contenu d'un article. Mais en revanche, tu as raison de t'intéresser au sujet parce que le narcotrafic et la violence qu'il produit dans notre pays et la sécurité, c'est un vrai sujet, tu as raison. Donc ce soir, du Skyrim. Là, j'ai une réunion. J'ai un Teams vers midi 30, ce midi 13h après la revue de presse pour bosser sur un truc. Après un peu de sport, et puis je vous retrouve ce soir. Je vous retrouve ce soir pour du Skyrim. Max Hanson, mais je suis Marseillais. Bah voilà! T'as peut-être même manifesté, t'as peut-être même manifesté. Avec les Marseillais et les Marseillaises. Bon, ça va vous? Ça va? Le week-end? La vie? La santé? La famille? Les amis? Le travail? Tu aimes le petit Camus sommaire? Ça va, ça te plaît? Le week-end fut bon? Oui. Du sport avec ce froid? Ouh! En salle. Avec l'âge, on devient frileux. Ouh! En salle, en salle, en salle, en salle. Adri Petit, là on est, regarde, on est nous dans le sommaire. Normalement sur TikTok, tu dois le voir. Tu vois la première ligne, elle est en violet bleu là. Bah on est là, on est dans le bonjour. Après, on passera au sommaire. Puis ensuite, on descendra et tu vois, la couleur va changer comme ça. Incroyable. Mais non, une veste va courir dehors. Non, 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 non. C'est un truc à se faire des torsions de, comme on a évoqué hier, là. Je sors d'études, je cherche un job dans ma branche, je galère comme pas possible. Force ni rue. Quel enfer, t'es dans quelle branche? T'as branché le chauffage? Non. Salut Joe, tu veux que je branche le chauffage? Non, j'ai pas mis de chauffage. Moi, je suis plutôt en mode économie d'énergie. Il faut? Il faut? On a fait un bon live avec Joe hier soir. Sur TikTok, tu es caché par le sommaire, malheureusement, mais très sympa sinon. Oui, parce que en fait, l'écran TikTok, le vertical, il y a très peu de place. Entre tout le bas qui est bouffé par. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a le chat, il y a plein de trucs, il y a des trucs de toutes les couleurs. Et ça prend 80% de l'écran. Le comment le les la une des journaux que je vais vous mettre dans un instant. Tiens, genre comme ça. Ah bah ça déborde aussi d'ailleurs. Voilà. Du coup, je vais monter un peu le sommaire. Voilà, on va le mettre comme ça là. Attends, je vous le mets bien. La tête du bonhomme, ça manque de place hein, sur un téléphone. Hein. Attends. Ah ouais, là, je vais vous le déplacer un peu comme ça. Là, vous verrez mieux. Voilà. Alors, vous ne me voyez plus, mais on s'en fout. L'important, c'est que vous puissiez voir le sommaire, quoi. Et les journaux. Je passe au second plan, je passe derrière l'actualité. C'est ça l'idée. Au travail, avec un week-end pourri par les migraines, c'est un peu triste du coup. Hein, ça, c'est affreux, ça. Les migraines, c'est fou, hein. Le nombre de personnes touchées et l'absence quasi totale, en tout cas partielle, de réponse médicale. Ouais. Coucou Samuel, je suis désolé, je remets mon message. Est-ce que tu as enlevé toutes les diffusions, les rediffusions de tes streams? Clem, non! Non, mais en fait, alors avant, mes replays étaient réservés aux abonnés. Hein? Longtemps. Après, je me suis dit, ah, c'est. Je me suis dit, c'est pas cool que tout le monde puisse y accéder. Tu vois? Même sans être abonné. Y compris ceux qui viennent clipper des petits extraits pour faire de la polémique. On aime bien ça. Voilà. Et là, Mathieu, en toute transparence, Mathieu qui gère la chaîne YouTube, me dit bah ouais, ça, le problème, c'est que du coup, le nombre de vues sur la chaîne YouTube, il a super baissé. Et ça arrange pas Mathieu. Voilà. Et Mathieu m'a dit, est-ce qu'il y a un moyen de remettre le sub only pour les replays? Pour les replays. Voilà. Donc, je l'ai remis ce week-end. Donc tu n'as plus accès quand tu n'es pas abonné au replay Twitch, mais tu as toujours accès sur la chaîne YouTube à J plus 1. Et tu as toujours la revue de presse en podcast audio l'après-midi sur toutes les plateformes de podcast. Voilà. Voilà. Donc j'ai prévenu les modos ce week-end, mais effectivement, je ne vous l'ai pas dit à vous. Normalement, il ne faut pas que ça descende en dessous de 15 degrés chez toi, sinon tu risques d'avoir des problèmes d'humidité. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ah, c'est vrai que sur TikTok, il n'y a pas les journaux. Tiens, c'est drôle. Ah oui, sur le... Vous avez raison. Comment ça se fait? Ah oui, sur TikTok, vous n'avez pas les journaux. Vous n'avez pas les... Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Vous avez juste... Sur TikTok, vous avez que les titres. Tiens donc. Ok, on va regarder ça. Ok. Ah ouais. Ah ouais. C'est volontaire apparemment. D'accord, ok. Ok. Boubou me dira. Bon, déjà, il est très beau. Ça reste... Ça reste très très beau. Ok. Je vous lis un petit peu, c'est mon plaisir. Merci Nucci pour le deuxième mois d'abonnement. Pardon, Hunting and Fishing, j'avais pas vu. J'ai regardé le samplet d'hier, j'ai envie de réinstaller Skyrim là tout de suite pour faire ma 4e nouvelle game. Bonne matinée à tous, merci Hunting. Il était beau. Merci Grégorio, j'avais pas vu ton sub, ton 4e mois, merci. Merci la tune du 69, j'avais pas vu non plus ton 4e mois. Merci Néphérim pour le 50e mois d'abonnement. 50 mois de soutien consécutif, merci Néphérim. Merci Jagerpi, merci Silverbrain, merci Avisa, j'ai remercié personne. Merci Lolotte, merci Jérôme Collat. Je vous lis, hein. C'est mon petit plaisir du matin et après on va enchaîner avec le sommaire. Y a pas la place sur TikTok? Ah, c'est pour pas masquer tout le visage. Ah ouais. Ok, ouais. Trop grosse tête. Le melon. Imagine si là je suis nouveau, c'est quoi les subs? Les subs, c'est un abonnement à la chaîne sur la base du volontariat qui te donne quasiment rien de plus, sinon ma reconnaissance éternelle, un accès au chat un peu privilégié, tu peux écrire plus souvent, un joli badge qui montre ton soutien, et surtout tu soutiens le travail de ton streamer préféré. Voilà. Un sub, c'est ça, c'est un abonnement. Sur le plus bel endroit où discuter au monde, à savoir Twitch. Tom Tom a du délai dans les messages? Non, non. C'est juste que vous êtes très nombreux à écrire. Et pas de pub. Ah oui, c'est vrai, quand t'es abonné, t'as pas de pub, t'as zéro pub. Exactement. Salut Accor, salut Lysandru. Lysandru, Lysandru. Ah putain, dis-moi comment je prononce. Lysandru, Lysandru, je dirais peut-être. Ah, je déteste écorcher les noms. Salut Remrava. Merci. Ah, tata Théo. Merci pour le 9e mois. Merci Javier del Pon del Gonef. Comment vas-tu? Lisandru, du coup. Ça, je suis désolé. Ça me. Je dirais Lisandru. Je déteste écorcher les noms. Merci Ketzak. Ok. Bon, on va y aller, les amis, vous en pensez quoi? Et si on se faisait un petit sommaire? Avec le Corse, tu prononces pas le U final. Ah oui, mais... Ouais, mais quand t'es Corse, non? Quand t'es Corse, Lisandre. Ah, du coup, Lisandre, du coup. Ok. Boubou, on y va, c'est ça? Boubou, il a envie de voir si ça marche. Et comme ça, en fait, Boubou, j'ai lancé le sommaire, j'ai ouvert le sommaire avec quelques secondes de retard par rapport au début de mon live. Parce que je me suis dit, ah, j'aurais dû le lancer en même temps, l'ouvrir en même temps. Je l'avais caché pour faire la surprise, pour que le TC démarre en même temps. On va voir s'il a pris le début du live, ça m'étonnerait, ou s'il a pris le moment où je l'ai ouvert, tu vois, si je l'ai mis apparent sur OBS, quoi. Ok. Ok, bon, je prends mon café, on fait ça. Va voir ça. Bougez pas. Petit café quand même, petit café. Parce qu'on se couche tard, parce que le square, on finit, ça me plaît, vers 23h, 23h15, puis après on rentre à la maison, on lit les journaux jusqu'à à peu près 2h du mat. Donc là, il faut que je me réveille. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, attention. Attention. Ok. Ok, on va passer sur le sommaire. Donc normalement, je fais ça. Un TC s'écrit automatiquement. Hein ? Côté Twitch. TikTok, il n'y a pas la place. Mais c'est très beau quand même. Et ça nous dit 10 minutes 27. Ah, et le stream a commencé il y a 20 minutes. Ah non, c'est 10h27, pardon. Ah oui, c'est l'heure. C'est l'heure. Et il est 10h27. C'est incroyable. Et attendez, il y a un truc caché. Il y a aussi le TC, mais le TC qui sera envoyé à Vincent qui s'occupe du podcast. Mais ça, vous ne le voyez pas. Incroyable. La technologie. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur Boubou, qui est dans le chat. Voilà. Et Madame Wayuki ont conçu ce sommaire. Ont conçu ce sommaire, mesdames et messieurs. Voilà, c'est pour vous. C'est cadeau. C'est magnifique. Voilà. Sur Twitch, vous avez là où on en est. Vous avez l'heure à partir du moment où on a commencé ça. Et vous avez le média. Voilà. Trop fort, Samuel. Ah bah c'est pas moi. C'est la commu, c'est les amis. Ça code dur. Exactement. Magnifique. Et attention, hein, c'est la première matinée où on le met en place. Hein. Imaginez, c'est un first try. Hein. C'est beau en vrai. Hein. Incroyable. On y va ? Alors, y a Asia qui dit « Pardon, mais je comprends pas ce que vous faites. » Asia, depuis 5 ans sur cette chaîne Twitch, tous les matins, avant on essayait, puis maintenant c'était tous les matins du lundi au vendredi, tous les matins, on lit les journaux ensemble. La presse quotidienne nationale que j'aime bien. Voilà. On lit les journaux et on parle de l'actualité, des articles que j'ai choisis, des actus que j'ai choisis, et on en parle ensemble, en général, pendant 3 heures. Voilà ce qu'on fait tous les matins du lundi au vendredi sur cette chaîne Twitch. On fait d'autres choses aussi. On fait un peu de gaming aussi, notamment le soir. Mais c'est ce qu'on fait. Voilà. Depuis 5 ans déjà. Et là, on est dans le sommaire, comme tu le vois. C'est-à-dire, je vais vous dire de quoi on va parler ce matin. Voilà, c'est parti. Let's go. Je vous en ai déjà parlé vendredi. C'est l'Humanité qui avait fait un dossier très fort, formidable, sur les violences faites aux femmes. Le Parisien nous propose également un dossier ce matin. C'est un sujet essentiel, urgent. Vous voyez que le Parisien parle d'ailleurs d'un état d'urgence sur les violences faites aux femmes en France. Donc, je voulais vous en reparler ce matin. Merci, notre bad viewer. Merci, Rem Ravat. Merci, Ravi Delpont. Dégonnez. Donc, voilà. Donc, ce matin, je vais vous parler de ça. Lisons. Les chiffres sont éloquents. Les victimes toujours plus nombreuses en France. Deux hauts magistrats plaident pour un changement radical de méthode. C'est ça, l'info. Leurs propositions sont remises demain en garde des Sceaux. Pourquoi on parle à nouveau de violences faites aux femmes? D'abord, on devrait en parler tous les jours dans notre pays. Merci Flormac. Et aussi parce qu'il y a ce rapport qui est remis au garde des Sceaux demain. Ok? Voilà. Agir à la source du mal. M-A, accent circonflexe, L-E. Titre Le Parisien ce matin. C'est un gros dossier, il y a plusieurs pages. Hein. Il y a plusieurs pages, vous le voyez. Notamment avec un éclairage sur les entreprises qui peuvent peut-être jouer un rôle aussi, nous dit Le Parisien. Donc, dans cette lutte contre les violences faites aux femmes, ce sera le premier sujet qu'on va évoquer ce matin. En replay, vous avez également le dossier de l'Humanité dont on a parlé vendredi sur le même sujet qui était très fort, qui était très important. Voilà. Où on en est du budget ? Un petit point budget, c'est la une de l'opinion, vous le voyez, nulle part. Si on adhère à l'analyse de l'opinion, le Cornu a tenté quelque chose, en gros, de s'en remettre à la sagesse du Parlement, notamment de l'Assemblée, pour que les députés se mettent d'accord sur un budget. Bon, alors, ce qui est fou, c'est que plein d'articles ont été votés, mais que globalement, le projet de loi de finances... lui, il ne va pas être voté. Il n'y aura pas de majorité pour le voter. Les députés rejettent, le gouvernement s'entête. Vous avez un édito ce matin de Gauthier Vaillant de l'Opinion qui nous dit « C'est l'inévitable échec de la méthode Le Cornu pour l'Opinion. pour l'opinion, c'était sûr que ça ne pouvait pas marcher, quoi. Ouais. Nous voilà à la mi-temps, assure pourtant Matignon, persuadé que la seconde lecture de ce projet de budget changera l'état d'esprit des parlementaires. Donc il y a un côté méthode Coué un petit peu. Le cap est fixé sur les derniers jours de décembre et une loi spéciale. Ouais. Donc je vous fais un petit point d'étape. C'est un peu nébuleux, c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe au Parlement autour de ce projet de budget. Donc j'essaie de vous en parler de temps en temps pour qu'on ne perde pas le fil. La COP est terminée, la COP 30. Hein, je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu parler de cette COP 30, la conférence de l'ONU sur le climat. Donc c'est la une de la Croix ce matin, vous le voyez. Moi, je vous en ai parlé au début en vous disant les enjeux, les inquiétudes sur cette COP. Et on a un bilan puisqu'elle s'est terminée samedi, nous dit la Croix, avec des résultats en demi-teinte. Qui laisse un sentiment général d'insatisfaction, doit encore mieux faire, titre La Croix, un accord sans ambition. Il y a plusieurs articles ce matin dans la presse sur cette COP, et globalement, le ton, c'est que, bon, bah, c'est pas foufou, quoi. Voilà. Donc nous, on prendra le temps de lire ce dossier de La Croix pour voir ce qui s'est passé, ce qui s'est décidé, ce qui a été signé, un texte à minima, nous dit le journal. Mais, il y a quelques petits signaux positifs. Elle a néanmoins permis à certains pays d'envoyer un signal positif sur la sortie des énergies fossiles. Donc on se penchera là-dessus. Alors, on en parlait tout à l'heure rapidement, parce que quelqu'un m'interpellait sur ce titre, Marseille versus le narcotrafic, et la personne avait l'impression qu'on parlait de la mobilisation des politiques sur le sujet. Non, c'est la mobilisation des Marseillais. Salut Pantoufle. Et des Marseillaises. Hein, les citoyens. Il est beau ce titre. Et on est toujours dans la Croix. Hein. Les citoyens debout contre le narcotrafic à Marseille. Samedi, 6200 personnes se sont réunies dans la cité phocéenne lors de la marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi, hein, ce jeune homme assassiné en plein jour la semaine passée, hein, devant une pharmacie de plusieurs balles. C'est un jeune homme qui préparait le concours pour devenir policier, Mehdi Kessassi, dont l'un des frères, grand frère, est un militant politique, écologiste, qui a failli être élu député d'ailleurs, et dont le grand frère lutte, est l'un des plus ardents combattants de la lutte contre le narcotrafic à Marseille. Et les enquêteurs se demandent si ce petit frère n'a pas été assassiné pour faire peur au grand frère qui se bat contre le narcotrafic. Voilà. Donc il y a eu une manifestation samedi à Marseille, et La Croix nous explique qu'une large partie de la société civile a répondu à l'appel de son frère, donc Amine Kessassi, qui est le militant écologiste dont je vous parlais, à ne pas se taire face au fléau du trafic de drogue. C'est un sujet dont on parle très souvent sur la chaîne, parce que je pense que la réponse de notre pays au narcotrafic et toutes ses conséquences en termes d'insécurité, cette réponse n'est pas suffisante. Donc il y a une prise de conscience à avoir là sur le sujet. Voilà. Toujours dans le sommaire, donc je vais assez vite, hein, je vous donne l'essentiel pour ceux qui n'ont que quelques minutes à nous consacrer ce matin et qui ne peuvent pas rester avec nous 3 heures. Vous l'avez peut-être vu passer cette actu, il y a eu une convention citoyenne sur les temps de l'enfant, notamment sur les rythmes scolaires, donc avec des citoyens qui ont réfléchi pendant un certain temps, qui vient de rendre son rapport. Voilà. Donc c'est un rapport extrêmement intéressant. Voilà, c'est 133 citoyens de 19 à 83 ans, qui ont travaillé dans cette convention citoyenne et qui ont remis des propositions qui sont, je trouve, assez intéressantes, voilà, pour que le rythme, notamment scolaire de l'enfant, soit plus adapté à lui, à son rythme de sommeil, notamment, et avec un découpage différent. Voilà. Donc, il y a des propositions, et notamment le retour à la semaine de 5 jours à l'école. Bon, je crois que c'est surtout pour le primaire, parce qu'à partir du collège et du lycée, je crois que de toute façon, on est en 5 jours. Mais de 5 jours à l'école pour les écoles primaires, si je ne dis pas de bêtises, qui sont en 4 jours. Voilà. Et sauf que cette proposition, qui est a priori validée par plutôt les scientifiques, les médecins, elle provoque déjà une levée de bouclier. Je lis Le Parisien ici. La solution avancée par la convention citoyenne qui veut notamment mettre en place des activités après 15h30 en lien avec les associations et collectivités, suscite beaucoup de craintes. Il y a aussi des inquiétudes quant aux inégalités que ça pourrait produire selon l'origine sociale des enfants et selon les endroits où ils sont. Voilà, donc on lira ça. C'est pas inintéressant. Voilà. Et puis, Un peu de musique pour terminer, avec un article sur ce que j'ai appelé la techno médiévale. Voilà. Et un artiste dont on parle beaucoup qui s'appelle notamment Perceval, mais pas seulement. Et quelqu'un me disait d'ailleurs dans le chat, parce que j'essaie de lire tous les messages, ah oui, mais en fait, si tu parles de Perceval, il faut écrire techno avec un K. Et alors moi, je ne suis pas un spécialiste de techno médiéval. Hein, c'est de la techno médiévale. Et là, Libération, on l'a écrit CH. Voilà, donc. Voilà. Donc, c'est, je ne sais pas s'il y a des spécialistes dans le chat, mais Libération a choisi de parler de techno, T-E-C-H-N-O. Donc, je parle à la personne qui m'a dit, Sam, si tu parles de Perceval, il faut que tu mettes un K. Donc là, j'avoue que je ne sais pas. Je m'en remets à Libération, quoi. Pas très très grave, mais en tout cas, c'est étonnant. Et pourquoi je vous ai mis ça? Parce que je connais pas. Et comme je suis curieux de tout, bah, je me suis dit, c'est quoi cette techno médiévale, quoi? Perceval égale trans, donc égale techno CH, ok. Du coup, on ira écouter. C'est pas un sujet qu'on avait évoqué il y a quelques temps? Non, pas sur cette chaîne. MMG, ça veut dire que t'es en train de me dire, tu regardes d'autres chaînes d'infos sur Twitch? Tu regardes d'autres chaînes d'infos sur Twitch que la mienne? MMG, c'est ça que t'es en train de nous dire? Une chaîne qui t'a parlé de techno médiéval? C'est ça que t'es en train de me dire? Merci Neo Passenger. C'est ça que t'es en train de me dire? J'apprends plein de choses. Hein. Merci MMG. Merci Metallica, puisqu'on parle de musique. Merci Metallica77 pour ce deuxième mois d'abonnement. Merci Flormac M pour le deuxième mois. Merci Rootsy pour le Prime. Je ne sais pas à quoi je dois cette pluie de subs. Vous êtes trop gentil. Merci Not Bad Viewer pour le neuvième mois. Merci Rem Ravat pour le neuvième mois. Vous êtes formidable. Voilà. Donc on ira écouter ça rapidement. À la fin, on va bien rigoler. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc c'est un petit sommaire, je vous rappelle. Le petit sommaire, c'est quelques minutes pour vous dire l'essentiel dans l'actualité, ce dont on va parler, évidemment, on ne va pas dans le détail, dans la finesse, mais comme ça, vous connaissez un petit peu l'air du temps de l'actu, quoi. Bim, ça, c'est fait. As-tu vu des articles sur le plan de paix de Trump qui semblerait provenir des Russes? On en a parlé vendredi. On a parlé vendredi de ce plan de paix qui est Trump pour l'Ukraine, qui est clairement aligné sur les souhaits de la Russie. Voilà. Les derniers articles que j'ai lus ce week-end et ce matin, c'est Trump serait déjà revenu un petit peu en arrière. C'est pour ça que je ne me précipite pas pour vous en parler, notamment sur l'ultimatum qui avait été donné à Zelensky. J'attends la suite. Voilà. On était sur les articles ce week-end extrêmement inquiets avec la pression de Trump sur Zelensky pour qu'il accepte le plus vite possible ce plan de paix qui est très aligné sur les souhaits russes. Mobilisation de l'Ukraine, des Ukrainiens, mobilisation des Européens. Depuis, Trump aura un peu reculé, notamment sur la date de l'ultimatum. Donc, à mon avis, il est urgent d'attendre sur le sujet. Et d'ici demain, après-demain, je vous lirai d'autres articles là-dessus. Voilà. Pour une fois que j'apprends un truc à Defecator, c'est pas souvent. Hein, parce que, en général, c'est plutôt lui qui m'apprend des trucs. Voilà. Bon, les amis, pas mal ce petit sommaire. Est-ce qu'on y va? On part sur l'actu? On part sur le premier sujet? Ça vous va? Vous validez? En tout cas, merci d'être là, ça me fait bien plaisir. Let's go? Ok. C'est parti. Attention, nous allons sur le sommaire. Sur le nouveau sommaire. Nous allons changer de ligne. Et donc, il y aura un nouveau TC qui va s'inscrire. Je regarde un truc. Ah, c'est ça. Attention. Attention. Boum! Boum, 10h41, c'est-à-dire, il est 10h41, hein, c'est incroyable. Comment c'est, il faut le baisser le sommaire sur TikTok, le sommaire, moi il me semble pas mal là où il est, vous savez, vous m'envoyez tous sur les téléphones différents, donc ça dépend du téléphone où t'es, de ton téléphone. Il se confond avec quoi? Tu peux pas le baisser, parce que si je le baisse, tu vois plus les journaux, quoi. TikTok, vous avez 2 cm d'écran, je peux rien faire, les gars. Alors, j'ai un sommaire, j'ai ma tête à mettre, j'ai les journaux, j'ai le chat. Comment ça, on ne voit pas la première ligne? Ça dépend de votre téléphone. Moi, sur mon retour de ce que devrait être votre téléphone, vous avez tout. Hein? Ah, il se confond avec le haut de l'interface TikTok, ton nom, liste spectateur, tout ça. Ok. Moi, j'ai tout, quoi. Mais je peux pas... Je fais au maximum, mais sur un téléphone, c'est compliqué. Je trouve que ce n'est pas le support idéal pour avoir toutes ces infos, quoi. Je fais au mieux. Donc les amis, parlons de ce premier sujet. De ce lundi. Bienvenue déjà à ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle, la revue de presse, la matinée Étienne, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, hein, sur Twitch, sur TikTok en direct, en replay sur YouTube à J+1, en replay dès l'après-midi 15-16h en podcast audio, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. Et le premier sujet ce matin, c'est les violences faites aux femmes. Alors on en a parlé vendredi déjà avec un très gros dossier dans l'Humanité qui était très bien fait. Et le Parisien en reparle ce matin, et tant mieux, parce que c'est un sujet dont il faut parler et dont on ne parle pas assez en France. La une du Parisien, vous la voyez, c'est ça, violences faites aux femmes, il y a urgence. C'est l'état d'urgence. Les chiffres sont éloquents, les chiffres, on les a évoqués vendredi, mais je vais vous les redonner. Et je n'aurai de cesse de vous redonner les chiffres sur les violences faites aux femmes en France, parce que à chaque fois que je vous communique ces chiffres, la réaction dans le chat, c'est « waouh ». C'est sidérant, quoi. Donc les chiffres, c'était de con, on va les développer, ces chiffres. Et les victimes toujours plus nombreuses en France. Deux hauts magistrats plaident pour un changement radical de méthode. Leurs propositions sont remises demain en garde des Sceaux. C'est pour ça que le Parisien en parle ce matin. Je vais commencer par l'édito. L'édito, c'est un article qui résume un peu l'actualité et où le journaliste donne un petit peu son avis. Il est signé Frédéric Michel ce matin dans le Parisien. Qu'est-ce qu'on attend? Vous le voyez, demande Frédéric Michel. 7 heures, puisqu'on parlait de chiffres, 7 heures, c'est le temps qui s'écoule en France entre chaque féminicide ou tentative de féminicide. Toutes les 7 heures en France, on a un féminicide ou une tentative de féminicide. Toutes les 7 heures, il y a donc, écrit le Parisien, une femme que son conjoint ou ex-conjoint tue, tente de tuer, conduit à se suicider ou à tenter de se suicider. Toutes les 2 minutes en France, une femme est victime de viol, de tentative de viol ou d'agression sexuelle en France. Toutes les 2 minutes. En mai 2023, Éric Dupond-Moretti, qui était ministre de la Justice à l'époque, évoquait ces violences qui nous font honte. Lors de la remise d'un rapport parlementaire. Il y était déjà signalé noir sur blanc à l'époque comme une mise en abîme des failles de notre système de graves défaillances sur le suivi des conjoints violents et récidivistes. Malgré une timide prise de conscience, parce que on en parle de plus en plus, heureusement, l'État français peine toujours à agir efficacement. L'Espagne, parce qu'en la matière, parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un modèle pas très loin de chez nous, l'Espagne, il y a quelques années, a pris des mesures pour lutter contre ce phénomène et a réussi à baisser de façon importante les violences faites aux femmes. L'Espagne a célébré cette année le 20e anniversaire de sa première loi pour lutter contre les violences de genre. Parce que l'Espagne, c'est un pays qui a été confronté très très fort à ce sujet, quoi. 20 ans qu'il a mis à profit pour une vision intégrale de la guerre à mener en créant des unités de police dédiées, des tribunaux et des juges spécialement formés, des accompagnements psychologiques ou financiers. Voilà. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas, ah là là, c'est tellement grave, c'est tellement triste, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. L'Espagne a pris des mesures que je suis en train d'évoquer. Voilà. Unité de police dédiée. Tribunaux et juges spécialement formés. Voilà. Accompagnement psychologique ou financier. Voilà. Une chasse à l'isolement social, à la peur, au déni. Ce dispositif, en Espagne, a incité 2 millions de femmes à signaler toute forme de violence. Et le nombre de féminicides en Espagne a chuté de 35%. En 2024, les autorités espagnoles ont prononcé près de 33 000 ordonnances de protection contre seulement 4 171 en France. Voilà. Nous avons 20 ans de retard. La question que pose le journaliste ce matin dans le Parisien, elle est simple, c'est qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de solution. Il y en a, elles sont sous notre nez, elles ont été mises en place en Espagne. Voilà. Donc ça, c'est l'édito qui résume un petit peu le sujet, puis on va lire un peu dans le détail cet article, ce dossier. Donc l'actualité, c'est qu'il y a deux hauts magistrats, qui plaident pour un changement radical de méthode afin de mieux appréhender traiter et surtout réduire les violences faites aux femmes qui ont fait 5 victimes ces derniers jours. Qui ont fait 5 victimes en France ces derniers jours. Hein. C'est une tendance lourde à laquelle la France peine à échapper malgré ses efforts. Chaque jour dans l'Hexagone, 3 femmes meurent ou sont sévèrement blessées sous les coups de leur conjoint, ex-conjoint ou époux. Et l'année en cours, avec déjà 149 décès, selon l'association Nous Toutes, et 82 selon le décompte du ministère de la Justice, ne devrait malheureusement pas inverser la courbe. Dans la seule journée de jeudi, 4 nouvelles victimes ont rallongé la liste macabre des féminicides à Sedan, dans les Ardennes, à Besançon, dans le Doubs, en Gironde et dans le Gard. La veille, le corps carbonisé d'une jeune femme de 27 ans avait été retrouvé dans l'Isère. Son compagnon passé aux aveux a été écroué ce week-end. Ce week-end, 34 000 personnes ont défilé à Paris en province contre les féminicides. Toutes les 7 heures en France, il y a une femme que son conjoint ou son ex-conjoint tue, tente de tuer, conduit à se suicider ou à tenter de se suicider à celle de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Un décalage entre les discours volontaristes et la réalité du terrain qui n'est plus acceptable. Le juriste du Parisien posait la question tout à l'heure. Pourquoi l'Espagne a réussi à réduire les féminicides et pas nous ? Il y a Mogwai qui dit « Je suis avocate et je peux vous affirmer que nous avons des audiences dédiées et des magistrats spécialisés en France, mais on en parle assez peu dans les médias. On a aussi des gendarmes formés spécialement et des assistantes sociales rattachées aux gendarmeries qui sont spécialisées. » Mogwai, pour suivre un peu le sujet depuis quelques années, tout ce que tu dis est vrai. C'est les choses qui ont été mises en place ces dernières années. Mais le constat que nous faisons, c'est que c'est insuffisant. Et si les moyens étaient suffisants, on aurait des résultats à la hauteur de ce qu'a fait l'Espagne. Donc personne ne dit que ça n'existe pas en France, mais manifestement, ça n'est pas assez diffusé, quoi. Quand on voit les chiffres. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Pourquoi l'Espagne a réussi à réduire les féminicides et pas nous ? Questionne Gwenola Jolicoz et Eric Corbeau, à la demande du ministre de la Justice, M. Darmanin. Ces deux hauts magistrats ont été chargés de proposer une nouvelle feuille de route qui sera remise demain au garde des Sceaux. Demain, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense que d'ailleurs, demain, dans les journaux, il y aura des dossiers là-dessus. Je vous en reparlerai parce que je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Intitulé à VIF, VIF, acronyme de violence intrafamiliale, le vocable utilisé par la justice pour caractériser les violences conjugales, le document de 46 pages recommande 10 mesures qui peuvent être mises en œuvre sans forcément de moyens supplémentaires. Selon les deux auteurs. Bon, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Je vais découvrir avec vous. Penser autrement, s'organiser autrement, réconcilier les Français avec la justice sur les vifs, donc les violences intrafamiliales. Résume-t-il. De leur côté, les associations, à l'origine des manifs du week-end dernier, réclament l'adoption d'une loi cadre intégrale et d'un budget de 3 milliards d'euros pour mettre en place cette loi cadre, plus de moyens. Il y a urgence car le peuple des femmes est au pied des palais et plus globalement la société n'est pas contente et nous le dit, reconnaissent les deux magistrats. Des affaires récentes, notamment le martyr d'Inès Messelem à Poitiers en septembre, de mémoire c'est une femme qui a subi une mort atroce et notamment qui est morte brûlée vive par son compagnon. Après, bon, bref, je crois qu'il lui a tiré dans les jambes auparavant, enfin, je crois qu'il s'agit d'Inès. On rappelait à la magistrature comme aux policiers leur faillite collective. Incapable d'éviter le drame vécu par la jeune femme qui s'était rendue au commissariat à 6 reprises auparavant, selon l'avocate et sa famille, pour signaler viol, menace de mort et strangulation. Voilà, je vous en avais parlé déjà vendredi de cette histoire. C'est une femme en plus qui avait eu le courage, et je marque une pause là-dessus, eu le courage de porter plainte. Parce que vous savez que là, on a les chiffres du nombre de plaintes en France. Mais on sait que l'immense majorité des femmes victimes de violences ne portent pas plainte par peur de ne pas être crues, entendues par les services de police et de gendarmerie, même si ça évolue doucement, hein, par peur que qu'une fois en justice, eh bien, il y a un problème de preuves formelles pour prouver les violences et donc que le conjoint violent soit relaxé. Dans l'immense majorité des affaires, il y a relax, parce qu'il n'y a pas de preuves. Et enfin, et surtout, parce qu'en portant plainte, la femme a peur de provoquer un nouvel accès de violence du conjoint, dont elle partage souvent le toit, Et il y a beaucoup de morts qui viennent justement d'une situation où la femme a eu le courage de dénoncer, de porter plainte, et ça a provoqué un déchaînement de violence du compagnon. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, les violences contre les femmes en France, elles sont infiniment sous-estimées. Donc là, la femme dont on parle, là, elle s'est rendue quand même au commissariat à 6 reprises. Des signaux qui auraient dû agir comme un déclic auprès des autorités et qui sont restés lettres mortes, à l'exception du téléphone grave danger qui lui avait été accordé. Des signaux constitutifs du contrôle coercitif de l'homme sur sa conjointe. Téléphone grave danger, ça c'est un truc qui a été mis en place en Espagne aussi. Il y en a en France maintenant. Bracelet anti-rapprochement. Place d'hébergement d'urgence, ça c'est les choses qui existent en France, mais de façon pas assez importante. Beaucoup a été fait pour les femmes, mais force est de constater, écrit le Parisien ce matin, que l'arsenal de protection ne suffit pas, ne suffit plus. Donc, pour résumer, par rapport il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, des choses ont été mises en place en France qui n'existaient pas avant. On liste téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement, place d'hébergement d'urgence, mais de manière insuffisante. Je suis convaincu qu'il faut criticiser, prioriser, si vous préférez, détaille l'un des magistrats. On retrouve le contrôle coercitif dans presque 100% des dossiers. Quand tous les mécanismes de contrôle sont à l'œuvre, il est de nos responsabilités de prioriser. Arrêtons la culture de la pile de dossiers pour favoriser la culture de la liste. Je sais pas bien ce que ça veut dire, c'est pas très clair. On va comprendre. Ah, ok. En gros, il faut agir plus vite à certains signes, d'après ce que je comprends. Tout en haut de cette liste de signes qui doivent alerter et amener à la protection immédiate de la femme, la strangulation. Un acte sexo-spécifique, soulignent les deux auteurs, qu'il faut repérer dans les dossiers pour les considérer comme un haut niveau de risque pour le passage à l'acte meurtrier. S'il y a eu tentative de strangulation, en gros, il faut immédiatement protéger la femme. Ça semble évident, mais manifestement, ce n'est pas le cas en France. Toute tentative de strangulation devrait être pour les policiers, gendarmes et magistrats un marqueur fort d'un drame à venir. Ça semble une évidence, mais si les magistrats ont besoin de le dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, un acte de strangulation dans un dossier de violence faite à une femme n'est pas synonyme de déclenchement immédiat d'une protection. Idem pour les menaces de mort et la surveillance des conversations de la conjointe et de ses allées et venues. En criterisant, c'est une grille de lecture applicable à tous les dossiers qui est proposée aux enquêteurs. La méthode suggérée dans le rapport implique aussi un changement d'approche, la révolution du genre. S'attaquer au discours, alors c'est dans le rapport des deux hauts magistrats, s'attaquer au discours de domination et de soumission et aux pratiques qui en découlent. Bon là, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on appelle le masculinisme en France. Force est de constater que la France n'a pas fait sa révolution du genre, la justice non plus. Il s'agit moins d'investiguer les conséquences pour la victime et plus d'enquêter sur les actes des auteurs. Démonter point par point le discours des conjoints pour juguler leurs pratiques violentes, voilà la feuille de route dévoilée et dont les magistrats de France pourraient s'emparer. Il faut changer de focal et passer à l'homme, conceptualise Gwenola Jolicos, donc l'un des deux magistrats. Alors là, ça demande des explications, les voici. Une approche que la haute magistrate a appliquée au palais de justice de Poitiers, quand il y a exercé avec son collègue procureur général Éric Corbeau, la méthode est visible dans un remarquable documentaire intitulé « Je vais te tuer », que vous pouvez sans doute regarder. Merci Mathieu. Merci Mikazi. De réalisatrice Karine Dufour, qui sera diffusée ce soir sur Arte à 23h. Le documentaire s'appelle « Je vais te tuer ». Documentaire qui filme la manière dont la juge et l'une de ses collègues mènent les audiences consacrées aux violences conjugales. Il dissèque ce documentaire les éléments du contrôle coercitif dont on parlait tout à l'heure, mis en place par les prévenus, destiné à, quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure, mais Sam, il faut que tu expliques ce que c'est le contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, c'est mis en place par les hommes violents sur leur compagne, ce contrôle de la femme qui vise à isoler, à capter, à dénigrer et à contraindre. L'approche genrée serait donc la nouvelle arme efficace pour enfin s'attaquer au féminicide à la racine, à la jeunesse du contrôle coercitif. Ouais. Rien de révolutionnaire puisque la méthode est documentée partout dans le monde et même par le Sénat français, plaident les magistrats, il est temps pour la justice d'adopter cette vision claire comme fondement de son action. Si je comprends bien, parce que je trouve que le truc n'est pas très clair quand même, si je comprends bien, le rapport incite la société, la police, la justice et nous tous à nous alerter dès la naissance de ces signes. Voilà. Le petit Camus précise dans le chat côté TikTok, oui c'est exactement ça, il faut en parler du contrôle coercitif, fouiller le téléphone de sa compagne, faire des pressions, la menacer, l'isoler, voilà. Tous ces signes doivent alerter et en gros provoquer la protection, la mise en place d'une protection pour la femme. Merci Ursien. Il est temps pour la justice d'adopter cette vision claire comme fondement de son action. Le rapport sera rendu demain matin sur le bureau du garde des Sceaux. Voilà. Et le Parisien espère que ce sera en haut de la pile des priorités. Et nous, on en parlera sûrement demain, parce que demain, c'est la journée... comment s'appelle cette journée ? La journée contre la violence, contre les violences faites aux femmes, je crois. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Comment s'appelle cette journée ? C'est quoi son nom officiel ? Moustique me dit c'est la journée pour les femmes. Je crois qu'elle a un autre nom. Onin me précise qu'il y a un documentaire de Slash sur YouTube à ce sujet très intéressant. Sugar me dit c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est ça. Ok. Ok. Pour les femmes, c'est pas demain, c'est en mars. Bah, le Parisien me dit que c'est demain. Mais peut-être le Parisien se trompe peut-être. Hein. De temps en temps, je vois des questions qui pop, mais quelles sont les applications que tu utilises pour lire les journaux? C'est les applications de chaque journal. En mars, c'est la journée des droits des femmes. C'est pas la même chose. Certains confondent, en fait. Ok, merci Squeak Gwen. En mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et demain, c'est la journée internationale sur les violences faites aux femmes. Et donc, il n'y a pas d'appli, en fait. Moi, je suis abonné à chacun des journaux que je vous lis. Et Sugar est allé voir le titre officiel. C'est même demain la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Merci encore, Squid Gwen. Voilà. Donc, il n'y a pas d'application. Moi, je suis abonné à tous ces journaux. Et donc, j'utilise l'application du Parisien, de Libération, du Monde, de l'Opinion, de La Croix, du Figaro, de l'Humanité, des Échos, de l'Équipe, une par une. Et je vous lis les journaux et je mets quelques articles de côté. Là, on a un portrait de victime dans le Parisien que je vais vous lire, qui est page 3 ce matin. C'est un sujet sur lequel je veux prendre le temps, en fait. C'est un sujet tellement essentiel. Viol, menace de mort et strangulation, le martyr d'Inès. Inès était une femme traquée. Maître Pauline Rongier ne mâche pas ses mots et résume d'une phrase choc ce que lui inspire la lecture des plaintes déposées par la jeune femme de 25 ans auprès du commissariat de Poitiers. Donc il y a eu des plaintes déposées par cette femme. La traque s'est achevée dans le sang le 8 septembre, dans le huis clos mortel au cours duquel l'ex-conjoint, dont elle s'était pourtant séparée et éloignée, donc cette femme avait trouvé le courage de se séparer, de s'éloigner, ce qui est parfois très compliqué de cet homme violent, et ça n'a pas suffi, ex-conjoint qui l'a tué de plusieurs coups de couteau à son domicile du centre-ville. Le meurtrier présumé, Habib, un réfugié afghan né en 89, est toujours en fuite et recherché. À 6 reprises, Inès a signalé aux policiers ce qui lui arrivait. À chaque fois qu'elle demandait à voir les enquêteurs, c'est qu'il se passe quelque chose de grave, souligne l'avocate de sa famille. La première plainte enregistrée le 10 juillet aurait à elle seule suffi à interpeller l'ex-conjoint. Elle y décrit clairement des viols, le dénigrement, l'ultra-surveillance, la peur de mourir, les étranglements. Tout ce qu'on a évoqué. Les strangulations sont des marqueurs d'un passage à l'acte imminent et fatal. C'est ce qu'il y a dans le rapport qui est remis demain au ministère de la Justice. Dans le cas d'Inès, cette classification, si elle avait été mise en place et connue de tous, police et justice auraient pu inverser le cours des événements, estime le Parisien. 5 compléments de la plainte principale interviendront ensuite, dans lesquels la victime va décrire son calvaire avec des éléments matériels, notamment la trace des 14 appels téléphoniques. La menace « je vais te donner une mort qui choquera le monde entier » figure en bonne place dans la déposition. Hein, de cette jeune travailleuse sociale à l'école de la deuxième chance. Cette menace était dans le dossier. Cette menace était dans le dossier. Un téléphone grave danger lui avait été attribué fin juillet. Qu'est-ce que c'est le téléphone grave danger dont on parle depuis tout à l'heure? Dispositif qui permet en cas de déclenchement d'alerter, de faire intervenir immédiatement les forces de l'ordre. Un signe que le parquet de Poitiers avait donc identifié Inès étant sous la menace de son ancien compagnon. L'équipement sera activé à deux reprises, dont la dernière 2 jours avant sa mort. Un déclenchement qui provoquera le déplacement des policiers et l'arrestation d'Habib, mais qui a été libéré, relâché quelques heures plus tard. Inès a eu le courage d'aller 6 fois au commissariat, appelle Maître Rongier. Tous les éléments étaient à la disposition des policiers pour intervenir immédiatement. Elle savait qu'il allait la tuer. Elle s'est heurtée à une inertie. Aucune recherche n'a été engagée sur l'auteur sur ses appels pour retrouver les témoins. Donc, dysfonctionnement. 2 enquêtes administratives d'ailleurs ont été lancées. Voilà. Pardon. Là, c'est la maman. La dame que vous voyez, là, c'est la maman. C'est la maman de la victime. Sur la photo. Dans une lettre ouverte, tout en déplorant la tragédie, des policiers poitevins se sont abrités derrière la surcharge de travail et les tâches administratives. La famille Messelem, dont la colère était apparue au grand jour au cours d'une marche blanche dans les rues de Poitiers 1 semaine après la tragédie, attend les résultats des 2 enquêtes avec impatience. Elle a retrouvé confiance en la justice et en l'État, dit l'avocate de la famille. J'espère qu'ils ne seront pas déçus 2e fois. Alors ça, c'est un dossier dont on a parlé vendredi. Gros dossier dans l'Humanité qui était excellent. Vous l'avez en replay. Le dossier de l'Humain était vraiment très très fort. Moi, je vous invite à revoir le replay de la matinée Étienne de vendredi. Le dossier de l'Humain sur les violences faites aux femmes était incroyablement fort. On en reparlera sûrement demain aussi, puisque demain, c'est donc la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et là, il y a encore un article dans Le Parisien sur le rôle des entreprises. Alors ça, c'est la première fois que je vois un article sur cet angle-là. Quel rôle peuvent jouer les entreprises? Les entreprises ne peuvent plus fermer les yeux. Bah, après tout, l'entreprise, c'est aussi un élément de la société. C'est peut-être elle a peut-être son rôle à jouer. Merci, Sosso-Sibérie. Avec l'évolution de la notion de sphère privée, les sociétés ont tout intérêt, donc les entreprises, à s'intéresser au sort de leurs salariés, qu'ils soient victimes ou simples témoins de violences conjugales. Je ne sais pas de quoi il s'agit, on va lire, ça a l'air intéressant. Et donc l'article pose cette question, est-ce que les entreprises ont une responsabilité en matière de violence conjugale? Question étonnante, à laquelle il serait tenté de répondre par un négatif. C'est vrai que tu dis, en quoi l'entreprise est-elle responsable des violences conjugales? Mais, si d'un point de vue purement juridique, les entreprises ont simplement l'obligation d'apporter la sécurité à leurs salariés sur leur lieu de travail, et de s'assurer des bonnes conditions d'exercice, la société évolue. Et la notion de sphère privée, qui reste protégée par le Code civil, le Code du travail et la Constitution, connaît aussi des changements. Bon, ok, je demande qu'à comprendre. L'apparition du télétravail, par exemple, a contraint les entreprises à pénétrer malgré elles au domicile de leurs collaborateurs. Depuis 15 ans, sous l'impulsion des réseaux sociaux, des pans de la vie intime sont dévoilés, ce qui oblige les services de ressources humaines à sortir de leur zone d'intervention habituelle pour surveiller publications et informations qui pourraient nuire à l'image des entreprises, grands groupes comme des plus modestes, ou être en contradiction avec des chartes d'éthique internes. Juridiquement, les sociétés n'ont donc pas de responsabilité en matière de violence conjugale, mais c'est à nuancer surtout d'un point de vue sociétal. Bon, manifestement, il y a un début de réflexion là-dessus, quoi. Dans quel cas l'obligation... Merci Forvel, merci Sosso-Sibérie. Dans quel cas l'obligation de sécurité sur le lieu du travail peut s'appliquer à la question des violences intimes ou conjugales, okay. Au travers du prisme de la santé mentale des collaborateurs et aussi d'un point de vue business, répond Émilie Méridien, qui est une avocate, les violences sont un facteur de perte de productivité, d'absentéisme, de départ, de désorganisation. Elles ont aussi un impact sur les collègues. Quand on est proche professionnellement, on se sent une responsabilité sans avoir forcément les moyens de la traiter. Okay. L'entreprise est par essence un carrefour où se croisent les vies intimes de ses collaborateurs qui échangent, qui se confient. Elle est donc plus à l'abri des critiques en cas de non-intervention. Okay. D'autant que plus des deux tiers des victimes de violences conjugales sont des femmes actives et 82% sont des mamans. Se pose donc la question de la manière d'agir et des ressources suffisantes en interne pour intervenir. Il peut arriver qu'une DRH soit convoquée par la police pour, lors d'une enquête pour des faits de non-assistance à personne en danger. On ne peut plus laisser ces problèmes à la porte des sociétés, c'est un risque et ça coûte de l'argent. Quelqu'un m'en parlait dans le chat tout à l'heure, c'est très intéressant, attendez. Quelqu'un me disait exactement ça. Nina me dit, oui peut-être, mais j'ai déjà rencontré des femmes qui se retrouvent avec leur salaire versé sur le compte du mari, il n'y avait aucune vérification de l'entreprise. L'article en parle. La comptabilité peut très bien instaurer la règle que les salaires ne peuvent être versés que sur un compte personnel et non sur un compte joint. Donc tu as raison, ça existe. En faisant une règle d'entreprise, aucune justification n'est à donner auprès de son conjoint. Moi, je ne savais pas qu'un salaire pouvait être viré sur un compte joint. Ça, je ne savais pas. Ce qui me semble surréaliste d'ailleurs. La surveillance des allées et venues, des déplacements, étant une des caractéristiques du contrôle du conjoint violent, on parle de plus en plus de cette notion de contrôle du conjoint violent, l'entreprise peut aussi permettre à la salariée de porter plainte sur son temps de travail en laissant son portable géolocalisé au bureau et sans que cela apparaisse sur les feuilles de paie comme la pause d'une demi-journée par exemple. L'entreprise protège, finalement accompagne la femme dans son dépôt de plainte. Cyril dit, mais pourquoi un salaire ne pourrait pas être versé sur un compte joint? Tu fais verser ton salaire sur le compte que tu veux. Alors, j'entends, hein, il y a beaucoup de couples qui gèrent leur argent sur un compte joint. Donc, j'entends, Cyril, ce que tu dis. Mais dans le cas d'un couple où il y a violence, où l'homme est violent, bah, ça donne un contrôle de l'époux ou du compagnon sur les finances de son épouse. Voilà. Contrôle de ses dépenses, le relevé bancaire, les dépenses, où, quand, comment, etc. Quoi. Donc, si tu n'y vois pas un problème, c'est que tu n'as pas réfléchi au sujet des violences faites aux femmes. Donc là, c'est très problématique. Et là, dans un couple où il n'y a pas de violence, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc l'entreprise a un rôle à jouer. Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais dans ce cas, c'est la justice de trancher. Enfin, Cyril, bordel, tu connais vraiment pas le sujet ou quoi? Pardon, Cyril, t'es un habitué, mais je te parle franchement. Cyril écrit, oui, mais d'accord, mais dans ce cas, c'est la justice de trancher. Tu connais un tout petit peu le sujet ou pas? Tu sais que dans la plupart du temps, avant que ça arrive au tribunal, la femme est morte, tu le sais, ça. À un moment, il faut dire les termes. Tu sais qu'elle est morte avant que ça arrive en justice. Et tu sais que dans 80 ou 90% des cas, il y a un non-lieu faute de preuve et que la femme retourne au domicile de l'homme violent. Tu le sais, ça aussi. Tu n'as jamais écouté aucun de nos échanges sur le sujet? Jamais? Tu sais que la justice française aujourd'hui est incapable de protéger les femmes victimes de violences. Tu le sais. Pourquoi tu me parles de la justice, enfin? C'est à la société de s'organiser. La justice n'est qu'un élément de la réponse. Putain, on a l'impression qu'on est vraiment sur le tout début de la base du rappel des trucs, quoi. Pourtant, on en a lu ces dernières années des articles sur le sujet. Et notamment ce matin. Alors je pense, je le dis sans colère, mais j'ai l'impression qu'on est quand même. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas les infos quoi, sur le sujet. Cyril, c'est un habitué, c'est un sujet dont on parle sans arrêt sur cette chaîne. Voilà. Mais peut-être que tu as raté toute la revue de presse qu'on a consacrée au problème. Dans ce cas-là, il faut répéter et répéter et répéter et répéter quoi, pour que les informations circulent. Voilà. Bon, à mon avis, on en reparlera demain, puisque demain, donc, c'est, nous disait le Parisien, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et il y aura sûrement d'autres articles dans la presse. Comme ça, on en aura parlé vendredi, on en aura parlé lundi, on en reparlera sûrement demain. Et puis c'est comme ça aussi que le sujet progressera. Et qu'il y aura de moins en moins de questions comme celles qu'on vient d'évoquer, quoi. Je vous lis un petit peu et puis on enchaîne avec le deuxième. Salut Moulbit. Salut mon petit Canatichot. Le podcast est fait pour toi. Merci Red Mafia pour le raid, c'est adorable. Merci Red Mafia. Merci Claire MGT. Merci Forvel. Et Lauriane me dit, on parlait de, tu sais, du compte commun là. Ayant subi des violences économiques, je n'ai pas vu le coup venir du compte commun avec mon ex. Merci Cyril, merci pour ton message. Merci à toi. J'entends, j'entends. Bon, je crois que sans être des spécialistes du sujet, on est en train de comprendre que, en fait, la responsabilité, elle est globale, elle est sociétale. C'est notre responsabilité. Moi, ce que je comprends de ce sujet, pour l'étudier un petit peu à mon tout petit niveau depuis un petit moment déjà, c'est que ça n'est pas seulement la réponse aux violences faites aux femmes, c'est pas qu'une réponse de la justice, c'est pas qu'une réponse de la police, c'est une réponse de tout le corps social. Voilà. C'est à nous d'être, en tant qu'hommes, en tant que femmes, sensibilisés à ces questions, de connaître par exemple tout, vous savez, tous les éléments là qui doivent alerter à mort. Hein, l'expression est catastrophique. Mais on a parlé de strangulation, on a parlé de menaces de mort, on a parlé de contrôle fric, des hommes contrôle fric qui contrôlent tout de la vie de leur épouse. Autant de signes qui doivent alerter. Hein, alerter si on est directement concerné, alerter si on est ami. Si on est de la famille, si on est un ou une collègue, hein, et questionner la personne visée par ces violences, l'accompagner, l'aider, lui dire qu'on peut peut-être l'accompagner, vous voyez, et peut-être la mettre en sécurité si besoin. Hein. Et c'est une responsabilité de la société. En plus des moyens qu'on va donner à la police et à la justice pour faire leur travail dans de bonnes conditions, bien sûr. Mais c'est tout ça. Voilà. Je pense que c'est ça. Et puis on va aussi, notre devoir aussi, nous, en tant que citoyens, c'est d'en parler et d'en parler et d'en parler et d'en parler pour que tous ceux, et notamment les hommes, qui ne veulent pas entendre ce discours, qui ne le comprennent pas, arrivent un moment à se remettre en cause, à s'interroger, quoi. Tous ces hommes qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas les valeurs, les informations, les connaissances, la réflexion pour comprendre ce sujet. Voilà. Et il faut en parler, même si c'est des sujets qui provoquent parfois des débats extrêmement sensibles, quoi. Voilà. On en reparlera sans doute demain. Ok? Je vous propose de passer vite fait au budget, où on en est du budget. Là. Salut Paul. La réponse est toute simple, c'est on est nulle part hein, sur le budget. C'est un peu problématique. Mais on va essayer de comprendre il est où ce nulle part. Ouais. En tout cas, merci à tous pour le débat. Le débat est très très riche dans le chat sur le sujet. On passe au budget. Hop! Magie du nouveau sommaire. Il est 11h16. L'heure est indiquée sur le sommaire. En tout cas, côté Twitch, TikTok, il n'y a pas assez de place. On est donc sur le budget impossible. Voilà, c'est beau, c'est la science. Voilà. Et je remercie encore les amis Boubou et Wayuki hein, qui ont dev ce programme. Alors, le budget, on a cru qu'il avançait, parce qu'il y a plein d'articles de ce budget qui ont été votés à l'Assemblée. Ah, sauf que les députés ne l'ont pas voté. Hein. Le gouvernement s'entête dans la méthode. Voilà. Les sénateurs reprennent aujourd'hui, c'est ça l'actualité, l'examen du projet de budget de la sécurité sociale. Jeudi, notamment celui de l'État, donc ce qu'on appelle le budget, quoi. Massivement rejeté par les députés dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà. Donc dans la nuit de vendredi à samedi, le projet de budget, le projet de loi de finances pour 2026, dont chaque article avait été voté séparément par l'Assemblée, le global a été rejeté par les mêmes députés qui ont voté article par article. Voilà. Alors, ça paraît bizarre, mais en fait, ça s'explique très bien. Alors, il y a un édito que je trouve assez drôle ce matin, qui est en haut là, qui est signé Gauthier Vaillant sur ce qu'il appelle l'échec de la méthode Lecornu, que j'ai envie de vous lire. Dans le genre machine à perdre, la méthode Lecornu est une mécanique de précision, écrit l'éditorialiste. L'ampleur du rejet du projet de budget 2026, vendredi soir à l'Assemblée, parle d'elle-même. 400 voix contre, 84 abstentions, une voix pour. Il y a un député qui a voté pour le budget. Alors que plein de députés ont voté pour plein d'articles de ce texte. Ok. Par estime pour une forme de panache, citons le député Elliot Harold Ewart, qui est l'unique soutien du texte. Je ne comprends pas quelle est la logique. Vous arrivez, a dit ce député, vous arrivez à trouver une majorité sur chaque article et une unanimité contre le texte. Ce député, il fait un peu le naïf, il dit, attendez, je ne comprends pas. Vous avez réussi à trouver des majorités sur chaque article séparément, mais vous êtes unanime contre le texte. Le mec, il dit, vous êtes des fadas, vous êtes des fadas. Hein? Facile, la logique à l'œuvre est tout simplement politicienne, nous dit l'opinion. L'opinion dit, mais comment expliquer ça? Il dit, bah ouais, c'est logique, c'est une logique politicienne. D'ailleurs, moins que celle des députés, c'est la logique du Premier ministre qu'on voudrait interroger. Comment a-t-il pu penser Lecornu qu'il en irait autrement qu'une assemblée fragmentée, composée de partis ayant les yeux rivés sur les prochaines élections? Comportement politicien au sens négatif du terme, quoi. Aller subitement s'entendre sur un budget, a fortiori économiquement raisonnable. C'était pas une méthode, estime le journal, c'était un saut dans le vide. À souligner sa propre faiblesse, à se lier les mains en renonçant en 49-3, à inciter les socialistes à revendiquer leur victoire tout en reprochant au MEDEF de déplorer ses défaites, Lecornu n'aura réussi qu'à s'aligner son propre camp sans engranger le moindre soutien. Il n'y a pas de compromis possible sans négociation préalable. L'opinion nous dit, pour qu'un projet de budget puisse avoir une chance d'être voté, le compromis, il est avant la discussion. Comme ça se passe dans les régimes parlementaires en Europe, en Allemagne notamment, où après des élections législatives, les députés des différentes formations qui ont obtenu des sièges se réunissent et pendant parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, se mettent d'accord sur un accord de coalition en disant voilà, sur tel sujet on fera ça, sur tel sujet on fera ça, sur tel sujet on fera ça. Y a une coalition qui naît de ces discussions et après ils vont gouverner. Et puis quand le texte arrive, y a un accord de coalition qui est arrivé avant. Donc logiquement, ils n'ont plus qu'à appliquer ça, quoi. Bon, ici, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, l'opinion dit, il n'y a pas de compromis possible sans négociation préalable comme ils sont pratiqués dans les régimes parlementaires, qu'on invoque si souvent tout en étant rigoureusement incapable de les imiter en France. Nous, on est dans un régime présidentialiste, et on n'a pas cette tradition de régime parlementaire, en tout cas pas sous la Ve. Le Premier ministre a cru pouvoir enjamber cette étape, que les députés s'entendraient, non pas avant, mais sur le tas. C'est-à-dire que le RN, LFI, socialiste, écologiste, LR, macroniste, tout le monde allait s'entendre. À la cool, quoi, la buvette. Résultat, le compromis a fonctionné à l'envers, s'est fait contre le texte, et au lieu d'élargir sa base, le gouvernement l'a annihilé. Et si le scénario d'une loi spéciale finit par s'imposer, on en parlera dans les prochaines semaines, les députés, loin de s'en sentir responsables, ne manqueront pas de lui reprocher. Voilà, ce sera la faute du gouvernement. Voilà. Alors, est-ce que ce sera des ordonnances? Est-ce que ce sera la loi spéciale? A priori, ce ne sera pas le 49-3. Voilà. Mais en tout cas, l'opinion dit, sans violence, c'était pas la bonne méthode. C'était pas la bonne méthode. Ça pouvait pas marcher. Bon, après, l'opinion le dit une fois que ça n'a pas marché, donc c'est un peu facile, mais... Alors, les détails maintenant de la formation, où on en est de ce projet de budget. Et soudain, le calme, en ce lundi 24 novembre, donc c'est aujourd'hui, pour la première fois en 34 jours, les députés ne tiendront pas dans leurs mains aucun projet de budget. Voilà. Les sénateurs ont pris le relais. Mercredi, les sénateurs vont voter le budget de la Sécu. Voilà. Jeudi, ils s'attaqueront au budget de l'État. Je vous laisse répondre à Baptiste Binder pour le replay en subodly. Dans le chat Twitch, s'il vous plaît. Le gouvernement appelle ça la mi-temps, en espérant qu'un budget adopté par le Parlement est toujours possible. Mais de quel sport Sébastien Lecornu est-il familier, s'interroge le journal. Souvent, le Premier ministre invite à entrer dans les sujets en mêlée. Ouais, le rugby, bof, le période est plutôt au basket, voire au baseball. Le premier se dispute en 4 périodes, le second s'étale sur 9 manches. Ça, explique-nous grosso modo, c'est quoi le problème sur le budget, s'il te plaît, je deviens fou. Je vais essayer, avec mes petits mots à moi. Je vais essayer. Donc, ce qu'on peut dire en termes d'infos, et à un moment, je vais essayer de vous résumer ça façon speedrunning, quoi. Speed, on dit speedrun ? Ouais, c'est ça, on va dire comme ça. Un mois d'examen budgétaire à l'Assemblée vient de s'achever sans que les textes n'en soient à la moitié de leur parcours. La fin de la partie est encore loin. Le projet de loi de finances, ce qu'on appelle le budget, est même reparti à zéro. Ok. Dans la nuit de vendredi à samedi, 404 députés ont rejeté sa première partie, un seul l'a soutenu. 125 heures de débat sont parties à la poubelle. Donc du coup, maintenant c'est la version initiale du texte, celle qui a été proposée par le gouvernement. Donc en gros, tous les débats à l'Assemblée de ces derniers jours n'ont servi à rien. C'est pour ça que moi je vous ai dit ces derniers jours, écoutez, je ne me presse pas pour vous parler des amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée, hein, les nouvelles taxes, les nouveaux impôts, les arbitrages, puisqu'il y a de fortes chances qu'au final, tout ça soit mis à la poubelle. Bon, bah, je me suis pas trompé. En même temps, c'était compliqué. Voilà. Donc, le texte là qui repart au Sénat, c'est le texte originel du gouvernement. Des mesures symboliques pour la gauche pourraient ne pas faire leur retour en deuxième lecture, comme la taxe sur les multinationales, par exemple, qui a été votée, mais qui part à la poubelle. L'entourage de Sébastien Lecornu, le chef de gouvernement, joue pourtant l'optimisme. Ce n'est que la mi-temps, papapap, papapap. Je vous lis l'essentiel, hein, parce que si je vous lis tous les détails, on s'y perd. L'objectif d'une adoption dans les délais des deux budgets, de l'État et de la Sécu, ces deux budgets différents, reste crédible, répète l'exécutif. Hein, le match va continuer de se jouer avec les mêmes joueurs, avec la même stratégie. Le Premier ministre va rester en surplomb à encourager les négociations directes entre les groupes parlementaires de sa position et il continuera à observer les mêmes jeux politiques. Voilà, du côté de l'opinion, on pense plutôt que ça va finir avec une loi spéciale. On aura l'occasion dans les prochaines semaines de vous expliquer ce que c'est une loi spéciale. Ou alors les ordonnances. Quel bordel. Donc, ce que j'en comprends, c'est pas forcément d'ailleurs très juste. Ce que j'en comprends, parce que moi j'ai un petit peu de mal là. Ce que j'en comprends. C'est vrai que le gouvernement Lecornu 2, c'est un gouvernement qui s'est formé avec une promesse arrachée par Lecornu au président Macron qui est de « moi je veux bien former un deuxième gouvernement, mais par contre, faut me laisser la main et notamment, je veux pouvoir annoncer aux députés ne pas utiliser le 49-3 ». Ok, 49-3, c'est cet article de la Constitution qui permet de faire passer un texte de loi, par exemple un projet de budget, sans vote, en engageant la responsabilité du gouvernement, mais sans vote. Ok. Donc, pour obtenir le soutien des socialistes pour que le gouvernement ne saute pas, il a dit, allez, je n'utilise pas le 49-3, et donc on fait confiance à qui ? Au Parlement, et notamment à l'Assemblée, pour discuter, pour voter un projet de budget sans la menace du 49-3. Bon, c'est ça qui a été tenté. On fait confiance au Parlement, à l'Assemblée, pour discuter et voter un projet de budget. Alors, la discussion, elle a eu lieu. Les échanges ont été extrêmement nourris, extrêmement intéressants. Il y a plein d'amendements au texte du gouvernement qui ont été votés. Ça a voté, article par article, amendement par amendement. Mais quand est venu le moment du vote, là, ce week-end, sur le texte, bah, personne, sauf un député, a voté pour le texte. Donc, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. L'opinion dit, ah, c'était sûr, en fait. C'était sûr, parce que tout simplement, il aurait fallu un miracle, mais d'ordre vraiment religieux, quoi, pour que ces partis qui ne sont d'accord sur rien puissent, à l'Assemblée, se mettre d'accord. Voilà. Donc chacun a voté dans son coin les amendements, parfois des partis, parce qu'en fait deux partis qui ne sont pas d'accord sur l'essentiel peuvent parfois se retrouver d'accord sur un truc en particulier, hein, sur un article. C'est comme ça que certains articles pour alourdissant la fiscalité en France ont été votés à la fois par la gauche et par le Rassemblement National. Voilà. Mais au moment de voter l'ensemble de ce truc, de cette espèce de texte Frankenstein construit un petit peu dans tous les sens, et ben les députés ont dit « Ah ben non, parce que moi l'amendement là, celui-là je l'ai voté ». Mais celui-là, là, j'en veux pas. Voilà. C'est ça que j'en comprends. Donc, alors qu'est-ce qui reste avec une assemblée divisée à ce point ? Une absence de majorité absolue et même relative pour un exécutif, la faute aux deux législatives perdues par Macron pour son deuxième mandat. Il reste quoi ? Il reste normalement, il reste le 49-3. Mais 49-3, le Cornu a dit qu'il ne voulait pas l'utiliser. Donc, il reste quoi ? Il reste la sagesse des élus, des députés et des sénateurs. Bon. Ou alors, il va se passer, puisqu'on ne peut pas utiliser le 49-3, un passage par ordonnance ou par une loi spéciale. Mais une loi spéciale, si j'ai bien compris, ce n'est pas vraiment un budget complet. C'est ça qu'on va suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà. Voilà. Et pendant ce temps-là, la France n'a pas de budget. Voilà. Bon, sinon... Sinon, je me présente en 2027. Mais ce sera encore plus le bordel, en vrai. Donc, ce sera encore plus le bordel. Le Cornut en direct sur France Info, il s'exprime sur le budget, désolé d'insister. Oui, alors merci au Molly. Désolé, je ne suis absolument pas hypé par le fait que le chef de gouvernement commande tout ça. Je ne crois pas que ça va être un gros game changer, quoi. Il va nous dire ce que les éléments de langage qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire qu'ils espèrent que ça va finir par marcher, quoi. C'est pas forcément la peine d'écouter. C'est un peu le bordel. Le texte qui va être débattu au Sénat devra-t-il repasser à l'Assemblée pour le vote ? Oui. Oui. Voilà. À un moment, en fait, ce qui peut se passer, c'est une commission mixte paritaire, une CMP, avec un nombre paritaire de députés et de sénateurs qui vont se mettre d'accord sur un texte, mais qui devra être voté par les deux assemblées après, quoi. Donc, et puis, si c'est pas voté, on verra. Voilà. Merci Diesel, j'écoute en parallèle le Cornu, rien de nouveau sous le soleil, qui est énorme surprise. Il va inviter les chefs de parti pour trouver 5 points de non-blocage. Waouh ! Je vous tiens au courant, je ne peux pas vous dire plus, je vous tiens au courant. Voilà. On en a encore pour un petit moment. De temps en temps, je vous donne le dernier épisode pour vous tenir un petit peu au courant. Quoi. Quelle est la conséquence d'une France sans budget ? Ben, en fait, on peut appliquer à minima le budget de l'année précédente, mais qui n'est pas adapté à l'évolution de notre pays en un an, quoi. T'imagines si pendant 10 ans on reste comme ça, avec la reconduction, ce pays il évolue, quoi. Donc il n'est pas adapté. Par exemple, les militaires souhaitent plus de budget pour répondre aux menaces actuelles. S'ils veulent plus de crédit, que les parlementaires sont d'accord, si le nouveau budget est pas voté, il n'y a pas de crédit, quoi. C'est un exemple, hein, parmi d'autres, hein. Par exemple, on fera rire les Belges, c'est déjà ça. Oui. Enfin, on aime bien rire mutuellement. La vie politique en Belgique, c'est aussi fascinant. Hein. Allez, on passe à la COP30. Bon, c'est pas non plus des très bonnes nouvelles, mais... Attention, la magie du sommaire. La magie du sommaire, mesdames et messieurs. La magie du sommaire. D'un clic d'un seul. Voilà. Grâce à nos devs préférés, on va passer au thème suivant, COP30. Hein, le bilan de la conférence de l'ONU sur le climat, hein, qui s'est tenue au Brésil, si je dis pas de bêtises, voilà. Et on aura l'horaire, c'est magique. Vous êtes prêts ? Et là, on l'a sur... hop ! Incroyable. Il est 11h31. Il est 11h31. C'est magnifique. C'est superbe. Voilà. On n'a peut-être pas, comme le dit Fabricadon, Fabrica, tu sais que je me suis penché sur ton mail, hein, je suis allé voir le site, etc. et tout, quoi. Je réfléchis à tout ça. Hein. T'inquiète pour le podcast, j'ai les TC aussi, King Julian. Voilà. Il est 11h32. Voilà, on vient de lancer 11h31, c'est magnifique, c'est magnifique. On n'a peut-être pas de budget, mais on a un beau sommaire. Voilà ce que je vous dis, moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette COP30? Je vous en ai parlé au lancement de cette COP. Hein. Les inquiétudes, un peu les espoirs, mais beaucoup les inquiétudes. Bon, ben oui, les inquiétudes se sont révélées exactes. Ça n'a pas été foufou. COP30, c'est pas peut encore mieux faire, comme on voit parfois sur les bulletins. C'est doit encore mieux faire. C'est la une de la croix. La conférence sur le climat s'est achevée donc samedi au Brésil, sur des résultats en demi-teinte qui laissent un sentiment général d'insatisfaction. La 30e conférence de l'ONU sur le climat à la COP30 s'est achevée dans une certaine confusion samedi, à Belém au Brésil, avec un texte à minima. Bon, ça n'est pas vraiment une surprise. Elle a néanmoins permis à certains pays d'envoyer un signal positif sur la sortie des énergies fossiles. Accord sans ambition, estime le journal. En même temps, je lis mes mails parce que j'attends une heure pour une conférence que je dois avoir tout à l'heure. Le lundi, les gens retournent au bureau et j'ai réponse à mes mails que j'envoie la nuit, dans la nuit de dimanche à lundi. Bah voilà, je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est ça. Ok, et l'horaire, c'est 13h. Ok, super. Alors, réponse, ok pour 13h. Ok pour 13h. À tout à l'heure. Ils sont gentils en plus et j'aime bien bosser avec eux. Sam. Je vérifie parce que je suis capable de mal lire l'heure, moi. 13h, ok. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Ok, let's go. Quel meilleur symbole? Je reviens à mon article sur la COP. Pour cette 30e COP, le sommet de l'ONU sur le climat, le Brésil avait choisi donc d'accueillir le monde à Belém, ville aux portes de l'Amazonie. Merci Radi Laser. Amazonie, poumon de la planète. 10 ans après l'accord de Paris, cet accord si important où 194 pays s'étaient engagés à limiter la hausse des températures sous 2, voire 1,5 degrés Celsius, on a échoué à le faire, vous le savez. Le président Lula entendait ainsi marquer le coup en passant de l'engagement à l'action, en faisant de ce sommet une COP de la mise en œuvre, hein, des engagements de l'accord de Paris. Belém était une promesse, celle d'une communauté internationale. C'est magnifique cette phrase. Rêvons un peu, rêvons, rêvons, rêvons. Belém était une promesse, celle d'une communauté internationale qui enfin allait se montrer à la hauteur du défi du siècle. C'est magnifique. En agissant de concert, imaginez si c'était comme ça. Pour limiter sans tarder le réchauffement climatique. C'est très beau, c'est très très beau. Dans un contexte de tension internationale, les négociations s'annonçaient néanmoins difficiles. On va revenir à la réalité. 2 semaines plus tard, c'est un texte à minima adopté dans la plus grande confusion que s'est achevé samedi 22 novembre, la COP30. Les délégations protestaient dans la foulée. Elles ont estimé, franchement, elle est passée inaperçue cette COP, c'est dommage. Alors, pas ici, hein, on en a parlé. Hein, ça, après, ça. Les journaux en ont parlé, ça dépend de quels médias tu consommes. C'est toujours le problème, c'est quels médias consommez-vous, quoi. On me dit, ah oui, mais les médias n'ont pas parlé. Ben, peut-être les médias que tu consommes. Mais les journaux en ont parlé beaucoup de la COP. Les journaux que je lis, en tout cas. Donc la question, c'est quelle source d'information, quoi. Les délégations ont protesté dans la foulée. Elles ont estimé que certaines demandes d'objection n'avaient pas été prises en compte sur certains points techniques très importants. Blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Mais au-delà de la forme, on a de la forme, c'est surtout le fond qui a suscité la déception. L'un des textes les plus attendus était la décision commune. À travers ce document, les États devaient afficher de nouveaux engagements. Voilà. Il n'est pas au niveau d'ambition attendu, a réagi la ministre de l'Environnement, qui est Monique Barbu. Voilà. Nous n'allons pas cacher que nous aurions préféré davantage et davantage d'ambition surtout. A renchéri le commissaire européen chargé du climat. Principal motif de mécontentement, donc un accord pas assez ambitieux, il ne mentionne pas explicitement la sortie des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. Il y a quelqu'un qui me demande quelles sont les sources d'information. Alors pardon, je ne te réponds pas directement parce que ça fait 5 ans que la question m'est posée tous les matins. Je vous laisse les habitués dire à Franly, quoi que tu tapes point d'exclamation RDP dans le chat, je suis bête. Point d'exclamation RDP dans le chat, t'as la réponse. J'ai fait un bot parce que littéralement c'est normal. Vous n'êtes pas obligé de me suivre depuis 5 ans. Donc, l'accord ne mentionne pas explicitement la sortie des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. Ce qui était une priorité pour les Européens, mais à laquelle certains pays comme la Russie, l'Inde ou l'Arabie Saoudite, énorme surprise, ont opposé une fin de non-recevoir. Dans une forme d'équilibrisme diplomatique, l'accord final ne fait que répéter la décision adoptée à Dubaï 2 ans plus tôt, qui mentionnait donc le sommet de Dubaï, une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable. Petite subtilité qui témoigne de la résistance à la sortie de ces énergies carbonées, responsable pourtant de 85% des émissions de CO2 dans le monde. De rien, Franly. Donc il y a eu un espoir à Belém, en fait, que alors en fait, que tacta, tu as littéralement la réponse à ta question dans le bot qui est juste au-dessus de ta réponse. Donc là, à un moment, je ne peux pas toujours. Désolé. Désolé de ne pas répondre à vos questions, mais cette question m'est posée tous les matins depuis 5 ans. Et si tous les matins je dois réexpliquer la même chose, les habitués vont se barrer, quoi. J'en peux plus, Samuel, tu racontes toujours les mêmes trucs, quoi. Mais littéralement, la réponse est dans le bot en plus. Donc l'espoir, c'était qu'à Belém, les pays s'engagent à sortir de ces énergies-là, quoi. Avec une feuille de route. Donc cette feuille de route, elle ne figure pas dans l'agenda formel de la future COP, comme le voulaient ses défenseurs, mais il y a beaucoup de pays quand même qui ont appelé à s'engager sur cette voie. Bien que décevante, c'est là où il y a des petits motifs d'espoir, 80 pays se sont ralliés à cet appel, prêts à passer du quoi au comment, voilà, sous l'impulsion de l'Union européenne et de ses partenaires d'Amérique latine, du Pacifique et d'Afrique. Voilà. Coalition, 80 pays, qui a le potentiel de lancer un débat sur les voies de transition, les politiques, les mesures adoptées. Avec un premier test dès l'an prochain, puisque la Colombie et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils organiseront conjointement une première conférence internationale sur la sortie de ces énergies carbonées. Quand on parle de petits espoirs, ils sont là, quoi. C'est-à-dire que les pays ne sont pas mis d'accord, mais vous avez de nombreux pays qui essayent d'avancer sur le sujet. Donc, pas d'avancée majeure, mais il faut se contenter de ce qu'on a. Certaines voix se réjouissent néanmoins de l'absence de recul majeur. Et ils voient une victoire pour le multilatéralisme. La science a prévalu, le multilatéralisme a gagné, a réagi Lula, le président brésilien. Plus de 190 pays ont réaffirmé leur engagement envers l'accord de Paris. C'est important dans le contexte du retrait des États-Unis de cet accord de Paris. Vous savez que Trump s'est retiré 2 fois de l'accord de Paris. Une première fois lors de son premier mandat, et puis comment s'appelait le président démocrate Biden est revenu de l'accord de Paris, et une deuxième fois quand il a été réélu, quoi. Mais Trump ne veut pas de l'accord de Paris. Certains avaient évoqué un risque d'effet domino, voilà, mais cela ne s'est pas produit et c'est significatif. Bon, sous-entendu, ça aurait pu être encore pire, quoi. Je vous lis un petit peu sur la COP, et puis on attendra la prochaine. Alors, Vanitas est en colère et je comprends la colère. Hein. Vanitas 62. On est dans l'allégorie de l'immobilisme. Tout un symbole dans une société qui s'effondre. Waouh, waouh, on va tous mourir. Mais demain, je pense. Hein, 25 novembre, ne revenez pas, on sera tous morts. Je plaisante. Hein. Mais attention à l'excès de pessimisme aussi, ça nous emmène nulle part en fait. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Ce n'est pas la COP30 qui va amenuiser ce sentiment. Il serait peut-être temps d'arrêter simplement d'en parler. Hein. Pour informer, ça fait 10 ans qu'on ne fait que ça. Alors. On a lu beaucoup d'articles sur la COP, évidemment pas aujourd'hui, parce que c'est un sujet dont on parle pas tous les jours, mais presque. Et notamment, les derniers articles qu'on a lus sur les COP, c'était que les COP, bah, sont insuffisantes, les COP ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Voilà. Les COP qui ne sont que le reflet de, des souhaits de, des pays qui y participent, bien sûr. Hein. Mais s'il n'y avait pas eu les COP, s'il n'y avait pas eu les engagements précédents, s'il n'y avait pas eu la COP de Paris, l'accord de Paris, on sait que le réchauffement climatique actuel, il serait bien plus important que celui qu'on aurait eu, qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que sans les engagements qu'il y a eu, grâce aux COP et à la mobilisation internationale, le réchauffement climatique en cours serait bien plus important qu'il n'est. Donc, c'est pas suffisant. On va dans le mur, mais on y va moins vite. Voilà. Donc, on pourrait arrêter d'en parler. Hein. On pourrait casser le thermomètre. On pourrait arrêter de se lamenter. Mais je suis pas sûr que ce soit la solution, en fait. Parce que j'aime bien ce que je dis, Pimousse. Ça, c'est ce qu'on avait lu en fait au début de cette COP, les articles qui disaient ça en fait. Je suis en train de vous lire. Merci Baptiste Binder. Ah, il y a même pris, je voulais dire, ne pas faire qu'en parler. J'entends. C'est bien d'en parler, mais ça ne suffit plus. À un moment, si les citoyens de ces différents pays arrêtaient de mettre à leur tête des gens qui sont opposés à cette lutte contre les changements climatiques, à un moment, il faut aussi assumer ses responsabilités en tant qu'électeur, quoi. Quand t'as un gars qui, dans son programme politique, dit « Le réchauffement climatique, c'est une blague, ça n'existe pas », et qui vient le dire à la tribune de l'ONU ensuite, en disant « Le réchauffement climatique, les changements climatiques, c'est une fake news, c'est un complot », bon, c'est dans son programme, hein. Donc à un moment, si les citoyens votent pour ce gars-là... On me dit « Ah oui, tout à l'heure, je disais les pays... » Ils me disaient « Non, ça ne mêle pas les pays, les dirigeants du pays. » Mais à un moment, ces gens sont élus, quand même. Hein ? Trump, il a été élu. Non, mais Trump, il a été élu. Ah, il s'est pas imposé, c'est pas un coup d'État non plus. Donc, on peut peut-être arrêter d'élire ces gens aussi. Ah oui, mais en face, il y avait un sénile. Vous voyez, ce truc, il y a toujours un argument pour voter pour le dernier fou, quoi, le dernier fou du bus, quoi. Il s'énerve beaucoup aujourd'hui, Sam. Non, je m'énerve pas. Tu m'as pas fait jouer à Valo. Viens me voir jouer à Valo. Tu verras comment je m'énerve. À un moment, quand tu votes pour un gars dont le programme est noir sur blanc, qu'il croit pas au réchauffement climatique, à un moment, il faut pas après dire « Ah ouais, mais je pensais pas qu'il... » Parce que d'habitude, ils appliquent pas leur programme, quoi. À un moment, hein ? Merci Sissi0907 pour la force que tu donnes à la communauté en suivant cette chaîne. Donc, je sais pas, la prochaine fois qu'on va nous convoquer, tous les gens qui disent qu'on ne fait rien, là, j'entends, hein. Moi aussi, ça, je comprends que ça mette en colère. Sur la question des changements climatiques, la prochaine fois que vous irez dans les urnes, j'espère que vous lirez attentivement les propositions du parti pour lequel vous allez voter en matière de lutte contre les changements climatiques. Mmh. Que littéralement, il y a des partis quand même qui proposent d'agir sur le sujet. Ah oui, mais bon, c'est tout. Ouais, mais parfois, souvent, ils n'appliquent pas leur programme. Le problème, c'est que les diableries à travers la planète sont davantage provoquées par des programmes qui sont appliqués que par des mesures qui ne sont pas appliquées. Hein. Le problème, c'est l'inverse, en fait. Le danger, il vient des programmes, hein. Des programmes qui s'appliquent, pas des programmes qui ne s'appliquent pas, hein. Donc lisez les programmes. Lisons les programmes. Bon, on continuera à lire des articles sur le sujet en tout cas. Mais parce qu'en d'en parler, c'est quand même participer à une prise de conscience. Merci Hortax. Hortax est joli comme. Putain, mais Hortax, mais je te lis souvent. Et Hortax. Hortax comme TVA, Hortax. Acheté. Putain, j'avais jamais eu. Je crois que j'avais jamais compris la rêve de ton pseudo. Hortax comme Hortax. Merci Kélambiche. C'est ça? Hortax comme acheté? Comme une facture? C'est ça? Ça change chez l'entreprise, ça. C'est ça? Je t'ai passé à côté. J'adore. T'es chef d'entreprise hors taxe ou pas? C'est ça? T'en as marre d'éditer des factures tous les jours? C'est ça ou pas? Juste DSI. C'est quoi DSI? C'est quoi DSI? C'est quoi un DSI? Directeur Sécu Info. Direction Service Informatique. Vous êtes incroyable. Ils savent tout. Ils savent tout. Ils sont trop forts. Bon, voilà pour la COP. Voilà. Il y a plein d'articles ce matin. Je peux même vous dire, parce qu'il y a les articles que je lis, puis il y a tous ceux que je ne vous lis pas. Hein. Dans Libération, il y a un dossier sur la COP ce matin. En gros, qui dit que la COP, c'est un flop. Si vous lisez Libé, vous l'aurez. Il y a Nanjou qui dit c'est celui qui essaie de sécuriser le SI de l'entreprise sans budget. C'est trop mignon. C'est vrai qu'il n'y a pas, de budget. Ok, de quoi je vous parle? De la lutte contre le narcotrafic. C'est parti. Hop. Sujet suivant. Bim. Il est marqué 11h49. Il est 11h49. C'est incroyable. Je fais un petit point replay. Mortaillot nous écrit. Alors, j'ai répondu déjà, mais tu n'es pas obligé d'être là au début aussi. Salut le chat, je suis sub, mais je ne peux pas regarder les replays. Il n'y a que moi qui ai le même problème. Ah non, si t'es sub, tu as les replays. Attendez. Comment ça, tu ne peux pas voir les replays si t'es sub? Les amis, amis sub, amis abonnés, vous pouvez voir les replays ou pas? Normalement, zéro souci. Hein. Si, Sugar me dit ça marche. Non, ça marche. En revanche, j'ai fait un petit changement ce week-end. Les replays ne sont plus accessibles quand tu n'es plus abonné. Parce que Mathieu, qui gère la chaîne YouTube, me dit « Sam, depuis que tu as fait ça, plus personne ne vient sur la chaîne YouTube. Voilà, » Et Mathieu, qui gère la chaîne YouTube, il est un petit peu triste, quoi. Donc ça, c'est finito depuis ce week-end. Voilà. Par contre, c'est toujours sur la chaîne YouTube J+1 et vous avez les podcasts de la revue de presse tous les après-midi à 15-16h. Voilà. Mais normalement, quand t'es sub, t'as toujours accès au replay. Voilà. Donc, sur la chaîne YouTube, vous avez toujours à J+1 tous les replays des lives. Voilà. Et Mathieu, il bosse énormément, mais du coup, il en a marre que les gens viennent plus sur la chaîne YouTube, quoi. Voilà. Ok. Parlons de la lutte contre le narcotrafic en France. C'est un article dans La Croix. Les citoyens debout contre le narcotrafic à Marseille, parce que ceux qui aujourd'hui se dressent, se lèvent contre le trafic de drogue et contre les conséquences de ce narcotrafic sur la sécurité des citoyens, ce sont les Marseillais, ce sont les Marseillaises qui ont manifesté, qui ont défilé dans la rue ce week-end. Et là aussi, je pense qu'on est au début d'une prise de conscience, parce qu'il serait temps, parce qu'on n'a pas fait en France ces dernières décennies ce qu'on aurait dû faire pour lutter contre le trafic de drogue. Les citoyens debout contre le narcotrafic à Marseille, samedi, 6200 personnes se sont réunies à Marseille lors de la marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi, ce jeune homme assassiné en plein jour la semaine passée, alors qu'il se préparait à intégrer l'école de police. Voilà. Mehdi Kessassi, qui est le petit frère d'un homme, qui est jeune aussi d'ailleurs, qui est un militant écologiste, qui a failli être élu député aux dernières législatives, voilà, et qui était l'un des fers de lance de la lutte contre le narcotrafic à Marseille. Les enquêteurs sont sur la piste d'un assassinat de son petit frère pour le faire taire, pour faire pression sur lui et sa famille pour qu'il arrête de se battre contre le narcotrafic. Une large partie de la société civile a répondu à l'appel de son frère, donc c'est lui dont je parle, le militant Amin Kessassi, à ne pas se taire face à ce fléau du trafic de drogue. C'est un cri du cœur, celui de toute une société qui se lève face au fléau du trafic de drogue. Près de 6200 personnes ont levé leurs bras vers le ciel samedi pour dire leur refus du narcotrafic lors de la marche blanche organisée à Marseille en hommage à Mehdi Kessassi, assassiné le 13 novembre en plein jour, hein, de plusieurs balles dans la rue. Vêtues de blanc, elles ont convergé vers le 4e arrondissement. Le jeune homme a été tué en soutien à la famille Kessassi. Une dizaine de participants tient une banderole « Justice pour Mehdi », pour la République, pour Marseille, nous marchons, la foule inonde le terre-plein, mais le silence est d'or. Selon les derniers éléments de l'enquête, le décès de Mehdi Kessassi pourrait être lié à un assassinat d'avertissement engagé contre le trafic de drogue, visant son frère Amin Kessassi, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, engagé contre le trafic de drogue depuis la mort d'un autre de ses frères, pour ceux qui connaissent l'histoire, d'un autre de ses frères, Brahim en 2020, qui lui justement était une petite main du trafic de drogue et qui a été abattu. Donc la famille a déjà perdu deux fils. Le premier qui était une petite main des trafiquants, et le deuxième qui lui se destinait au contraire à l'école de police. Malgré des interrogations sur sa venue, le militant écologiste sous protection policière arrive avec ses proches sous les applaudissements de la foule. Une minute de silence est observée. Un message enregistré par le jeune homme de 22 ans est diffusé. Nous parlons parce que nous savons que le silence tue. J'ai besoin de vous, de votre engagement dans la durée. Entrez en résistance, luttez, parce que lutter, c'est vivre. Hein ? Aujourd'hui, le jeune homme, là, il est sous protection policière. Et une partie de sa famille aussi. Jamais une marche blanche en hommage à une victime liée au trafic de drogue n'avait rassemblé autant de personnes. Le drame a suscité l'émoi dans la cité phocéenne, mais aussi dans toute la France. Vers Marseille ont convergé de nombreuses personnalités nationales du monde politique, associatif, religieux. Le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a fait le déplacement pour appeler à agir ensemble pour que la peur et la mort n'aient pas le dernier mot. L'assassinat de Mehdi Kessassi a-t-il insufflé un vent de panique et de crainte dans la cité phocéenne ? Certains militants associatifs, acteurs du terrain ou proches de victimes souhaitent garder le silence ou requièrent l'anonymat. Vous voyez où on en est ? C'est le cas de cette mère de famille, endeuillée par la perte de son neveu en 2023, venue dire stop. On n'en peut plus de perdre des jeunes, de voir des mamans pleurer leur fils, exprime-t-elle. Elle ne donne pas son identité. Il y a la peur à Marseille. D'autres n'hésitent pas à évoquer un meurtre qui dépasse toutes les fictions, estimant qu'un nouveau cap a été franchi. Il faut lever la tête face au narcotrafic. Mais c'est compliqué car on est démunis. La société civile s'expose aux armes et aux représailles. Pour autant, une large partie de la société civile a été bouleversée par le courage et l'appel d'Amin Kessassi. Au lendemain de l'enterrement de son frère Mehdi, ce dernier a fait le tour des médias pour porter ce message « Non, il ne se taira pas ». Il a notamment donné une interview au Monde la semaine dernière. Il a une force extraordinaire qui apporte de l'espoir, expliquent les militants associatifs de la ville. Il y a une semaine, Katia aurait refusé de s'exprimer pour protéger sa famille, ses enfants. Qui est Katia ? Qui est Katia ? Je l'ai pas là. J'essaie de comprendre le. Ah, c'est la présidente, pardon. Je comprenais pas. D'Adelphi Cité, association d'éducation populaire engagée à Marseille. Mais elle dit Amin Kessassi s'est levé pour prendre la parole. Si tout le monde se tait, on n'aura pas réussi à protéger ce combat contre le trafic de drogue, contre ce système qui broie nos enfants. Marseille a déjà vu défiler de nombreuses marches blanches organisées par les associations de les proches de victimes du trafic de drogue. dès 2013, hein, en 2022 également. Donc c'est pas la première fois que les Marseillais se mobilisent. Et après, les choses s'aggravent. Hein. L'année 2023 aurait été particulièrement meurtrière dans la ville. 2023, le trafic de drogue faisant 49 victimes. Par contre, ce que note l'article, c'est qu'il y a de plus en plus de gens dans ces manifestations, dans ces marches blanches. En 2023, il y avait une manifestation pour Sokena, jeune fille collatérale du narcotrafic. Je crois qu'il s'agit de cette jeune femme qui s'est pris une balle perdue, un fusil d'assaut dans sa chambre alors qu'elle était en train de réviser son droit, ses études de droit. Et il n'y avait qu'une centaine de participants à la manif. Hein, 6 000 ce week-end. Si la marche blanche de ce samedi marque par son ampleur inédite, il est légitime de s'interroger, que restera-t-il de cette mobilisation? Merci Roctali, merci tout petit Dams. Il faut une prise de conscience collective, disent les associations. Voilà. C'est notre affaire à tous. L'omerta se lève donc peu à peu, mais un sentiment de lassitude règne malgré tout au sein du tissu associatif local, impuissant face à l'emprise du trafic de drogue et à la massification des violences qu'il engendre. Les jeunes n'ont pas de repères, constate un éducateur marseillais de 37 ans, Mohamed Benmedour. Le premier employeur, c'est le trafic de drogue. Pas besoin de CV ou de bagages professionnels. Les réseaux s'installent sur les cendres de quartiers délaissés par les politiques publiques, listés par les habitants, centres sociaux qui ferment, classes surchargées, logements insalubres, manque de transports en commun. Les signaux sont au rouge depuis longtemps dans nos quartiers, on n'a pas su parler aux jeunes pour leur proposer une alternative. Désormais, les regards se tournent vers les responsables politiques, présents en nombre lors de cette marche blanche. Je demande au gouvernement de prendre la mesure de tout ce qui se passe, a plaidé la maire de Mehdi Kessassi, dans un discours empli d'émotion. Petit Boulbi, tu parles de la Convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant? On en parle dans un instant, regarde le sommaire. J'arrive. Des appels à l'action politique relayés de longue date par Amine Kessassi, comme par la société civile marseillaise. Nous avons besoin. Que disent ces militants associatifs marseillais et ceux qui luttent contre le narcotrafic à Marseille? Nous avons besoin de plus d'investissements, de plus de présence humaine dans les quartiers, que ce soit les autorités, les travailleurs sociaux, les travailleurs médicaux. Ça donnerait un élan d'espoir, sinon à quoi sert d'en parler? Je vous lis. Alors, ce qu'on ne lit pas assez, enfin j'en lis régulièrement, mais ce qui me manque ce matin, mais j'en ai lu et j'en lirai, c'est des articles sur des spécialistes du sujet, de la lutte contre le narcotrafic qui proposent des solutions. Parce que là, on est sur le constat, on se lamente, c'est infiniment triste. Évidemment, la question qu'on a envie de se poser, c'est ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, on a déjà évoqué plein de fois ce sujet, là, j'ai pas d'article sur le sujet ce matin. Mais pour résumer, mon sentiment sur le sujet, c'est que il faut plus de moyens pour la justice, pour la police, comment dire, un plan de lutte contre le narcotrafic qui est global, qui intègre plein de choses, la relation, notamment l'aspect international avec les relations avec les pays producteurs. Donc un plan massif et un plan global, pas juste du saupoudrage en mettant un peu plus de policiers là ou un peu plus de juges ici. Et parallèlement, la légalisation du cannabis avec un contrôle de l'État étatique par une régie de la vente de ce produit, voilà, qui ne pourrait être distribué et vendu que par l'État, voilà, un produit taxé, voilà, comme la vente d'alcool est taxée en France, un produit taxé et le produit de la taxe irait notamment financer la lutte contre le trafic de drogue. Voilà, pour ça, à mon avis, c'est le truc qu'on pourrait faire en s'inspirant des pays qui ont légalisé le cannabis. Il y aura toujours du marché noir, Samuel. Bah, il sera interdit. Bah, il sera interdit. Moi, je veux que l'État ait un monopole sur ce commerce-là. Il faut aller voir les pays, les États américains, l'Allemagne, plus proche de nous, qui ont mis ça en place, voir comment ça se passe, trouver une solution française pour ce sujet. Voilà. Et avec l'argent et l'argent collecté par ça, on le met à fond sur la lutte contre le narcotrafic. Le marché noir est déjà interdit. Ah non, 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 c'est pas du marché noir. Le marché noir, c'est la vente dans un cadre illégal d'un produit qui est légal. La cigarette en France, tu as le droit de la vendre dans les bureaux de tabac. Il y a un marché noir d'un produit légal qui est dans la rue. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de marché noir du cannabis. Le produit est illégal. C'est du trafic. C'est pas la même chose. Faut pas confondre les mots. Demain, si le cannabis est légalisé en France avec un contrôle 100% par l'État, le trafic de cannabis serait pas du trafic, ce serait du marché noir. Voilà. Et il faut notamment, oui, il faut aussi travailler avec les pays producteurs pour stopper tout ça, ouais. Ou alors on laisse faire, hein. On change rien et on laisse cette insécurité grandissante monter dans nos villes liées au trafic de drogue. Sinon, on fait ça. Après, il faut trouver un système, effectivement, qui n'additionne pas une vente légale de cannabis encadrée par l'État et la poursuite du marché noir et du trafic, quoi. Et ça, il faut inventer ce système. Hein, sinon, on peut rester chez soi et continuer à se lamenter, quoi. C'est ça que je veux dire, en fait. Je pense qu'il y a un truc à essayer quoi, autour de ça, quoi. À partir du moment où on constate que la vente de ces produits, que c'est mauvais pour les gens qui en consomment, pour la santé, et que ça produit des effets délétères sur la société en termes d'insécurité, il faut lutter contre ce trafic. Il y a zéro débat là-dessus. Je suis pas un historien, mais l'exemple de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, c'était à quelle époque ça? A bien montré que, en fait, la prohibition, l'interdiction du produit ne réglait rien. Hein? La prohibition de l'alcool aux États-Unis, elle a provoqué une vague de violence surréaliste, quoi. Et ils sont venus en arrière après, quoi. Rappelons que les États-Unis, à un moment, ils ont interdit l'alcool quand même, hein? Et puis ils se sont rendu compte que ça marchait pas. Bah, je pense qu'il faut cette leçon-là, il faut en tenir compte pour légaliser ce produit, mais totalement encadré par l'État. Les années 20, c'était les années 20. Entre les deux guerres, merci. Et comme ce produit on le taxera, et bah tout l'argent, on le mettra sur la lutte contre le narcotrafic. Je vous lis, je vous lis. Vache écrit, la prohibition, ça marche pas. Il faut légaliser, il faut réglementer, il faut contrôler. C'est pas pour ça qu'on va tous se mettre à consommer de la drogue dure. Voilà. Par contre, il faudra augmenter les contrôles routiers. Tu m'étonnes. De la même manière que l'alcool est interdit au volant, il est évident que cette légalisation du cannabis, elle ne doit pas passer par un nombre grandissant de conducteurs sous influence, quoi. Alors, ta liberté de fumer, elle s'arrête à la mise en danger de la vie d'autrui, quoi. C'est prévu. Et on commencera d'ailleurs par aller voir ce qui s'est passé à l'étranger et voir si ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. En tout cas, il faut l'essayer puisque la politique classique française de lutte contre le trafic de drogue depuis que le trafic de drogue existe dans notre pays a échoué. C'est-à-dire que la consommation de drogue est de plus en plus importante en France, les saisies sont de plus en plus importantes, c'est pas parce qu'on est plus efficace, c'est parce que le trafic est plus important. Les sommes concernées par le trafic sont en train d'exploser, le nombre de morts liées au narcotrafic en France est en train d'exploser. Donc on est obligé de constater que la réponse uniquement répressive qui a été mise en place jusqu'ici par tous les gouvernements qui sont succédés n'a jamais marché. Donc à un moment, pardon, mais il est peut-être temps d'essayer autre chose. Hein? Tous les ministres de l'Intérieur qui nous ont dit cette fois, vous allez voir ce que vous allez voir, on va frapper fort. Hein? Et après moi, ce sera réglé. Ils l'ont tous dit, quoi. Ils l'ont tous dit. Ça n'a pas marché. De gauche, de droite. Donc à un moment, il faut s'interroger quoi sur un truc qui marche pas. Bon, après, moi, je suis pas un politique, hein. Je suis pas là pour résoudre les problèmes de la France. Hein. Juste, on parle des sujets, quoi. Et vous non plus, d'ailleurs. Hein, sauf si certains veulent être élus dans le chat, quoi. C'est en tout cas un sujet polarisant, me dit Côtelette. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, dans l'état du pays, tout sujet est polarisant, quoi. Tout sujet provoque de la colère. Il n'y a plus un sujet. Tout à l'heure, on va parler de techno, on va parler de musique, même sur ce sujet. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont réussir à se mettre en colère. Aujourd'hui, et j'en fais le constat, et je le regrette d'ailleurs, hein, dans la revue de presse le matin, sur tous les sujets, les gens arrivent à s'écharper, quoi. Voilà. Donc, où on arrête d'en parler comme ça, bon, ben, c'est un peu plus chill, quoi. Moi, je joue à Skyrim H24, quoi. Où on continue et voilà, et on gère ça, quoi. On gère ça, quoi. Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on échange en France, quoi. Allez, quelqu'un me disait tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'il avait participé à cette convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Voilà. Et ça, en vrai, c'est assez passionnant. Voilà. Donc, on va en parler ce matin. Avec les propositions et déjà la levée de bouclier de certains. Alors, on y va, hop, il est midi 10, voilà, le sommaire indique midi 10, let's go. Qu'est-ce qu'on a? D'abord, on va lire dans Libération ce qu'il y a dans ce rapport, hein, c'est ça, sur la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, et les vrais changements qu'elle propose, et puis on verra qu'il y a déjà une levée de bouclier, quoi. Donc le truc n'est même pas appliqué, quoi, c'est juste un rapport. Pourquoi il y a une levée de bouclier? Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Réunie à la demande du président Macron, cette troisième agora du genre, la troisième convention citoyenne, il y a eu celle sur le climat, hein, dont les résultats ont été superbement ignorés par l'exécutif. La deuxième, c'était sur quoi? C'était convention citoyenne sur... Il manque la 2. La 3, c'est sur les temps de l'enfant. La 2, le chat va nous la rappeler parce que vous êtes trop fort. Merci Sansoué. Sur la fin de vie? Bravo, vous êtes trop fort. La Convention citoyenne sur la fin de vie, vous êtes très fort. Elle a été qui a fait un travail incroyable aussi. Eh bien, voici la troisième, donc la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Elle a livré dimanche ses recommandations en faveur des rythmes mieux adaptés aux élèves, souvent sous pression. Bon, déjà, un petit conseil de com. Les gars, quand vous bossez pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sur un truc et que vous faites un rapport, ne le publiez pas le dimanche, quoi. Pas le dimanche. Non, attendez, je sais pas, attendez lundi. Du coup, les médias sérieux en parlent quand même ce matin, mais le dimanche, c'est peut-être pas le jour idéal pour communiquer sur un truc. Ben, juste un conseil de com' comme ça, pour les prochaines conventions citoyennes. Hein? Des standing ovations. des remerciements émus, des accolades, voire des embrassades. Dimanche matin, mais quelle idée, quoi. Dimanche matin, quoi. Pardon, je me fâche tout seul, mais... Dimanche matin, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant votait officiellement son rapport au Conseil économique, social et environnemental. Ah, après, comme c'est des citoyens, peut-être que beaucoup bossent, et que du coup, ils bossaient le week-end. Ok, d'accord, je sais pas. Au Conseil économique, social et environnemental, et dans l'hémicycle du Palais d'Iéna, l'ambiance était celle d'une victoire collective, d'une mission accomplie avec fierté. En vrai, ils ont bossé, ouais. La question posée à 133 citoyens, il y avait quelqu'un dans le chat, a priori, qui y a participé, de 19 à 83 ans, venu de la France entière, a un potentiel de pétaudière. Petit Boulby me dit, on était obligé de faire ça dimanche, on travaillait du vendredi au dimanche. Ben voilà. Comme c'était des citoyens dont beaucoup étaient déjà engagés dans une vie pro, en fait, ils bossaient le week-end. Ben bravo à vous. Ok. Ah, donc ça a été voté dimanche. Ok, je comprends. Putain, vous bossiez le week-end ? Waouh ! C'est incroyable en vrai. Ben bravo à vous. Et donc, le sujet, c'est comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu'ils soient plus favorables à leur apprentissage, à leur développement et à leur santé. Donc un vrai sujet, quoi. Formulé en juin, c'était Bayrou à l'époque, à la demande du président Macron, qui avait dans le collimateur les vacances scolaires. Elle a mobilisé ses protagonistes en 7 sessions de travail, donc 7 gros week-ends de boulot, manifestement. La réflexion a été alimentée par des rencontres avec des experts, des acteurs de terrain, l'audition d'un panel de 20 adolescents qui ont fait part de leurs propres recommandations. Il y a des jeunes aussi, quoi. Il s'agit de la 3e convention du genre après celle sur le climat et la fin de vie, vous me l'avez rappelé. Ok. Le résultat est conséquent, un pavé de 254 pages. Il s'amorce par un manifeste au constat sans appel, aujourd'hui faute de volonté politique, de soutien à la parentalité, de considération collective pour les enfants. Leurs apprentissages, leur développement et leur santé sont affectés. Des causes majeures sont identifiées. Une organisation des temps de l'enfant non prioritaire. C'est pas l'enfant qui est prioritaire dans l'organisation des temps de l'enfant. Tiens donc. Dépendante de celle des adultes, parents, professionnels, les emplois du temps, voilà, les vacances aussi, tout ça. Un rythme scolaire inadapté en fonctionnement physique, psychologique, cognitif de l'enfant. Hein. Par exemple, on sait que pour les ados, quand un temps de sommeil un peu particulier, ils sont étranges, ces ados, les cours commencent trop tôt, les scientifiques le disent. Il faudrait les faire plus tard. Il faudrait commencer la journée à 9 ou 10 heures, pas à 8 heures. Trop de temps dévolu à l'évaluation, l'orientation ou les devoirs, avec pour conséquence de mettre les enfants sous pression, passer de temps libre et d'accompagnement des familles, écran omniprésent. Les propositions abondent, précisent, la journée scolaire, elle devrait commencer à 9h, voilà je vous le disais, pour le secondaire, et se terminer à 15h30 pour tous les niveaux, 16h30 pour le lycée, le matin étant dédié aux apprentissages théoriques, quand on a un petit peu la pêche, quoi, l'après-midi aux apprentissages pratiques et aux activités culturelles ou sportives. Les cours doivent durer 45 minutes pour permettre de vraies pauses, les devoirs à la maison doivent être réduits, il serait temps. Ah bah c'est ça le problème. Eh oui, c'est que ça n'arrange pas les adultes. Il y a Franly qui dit, bah oui c'est vrai, les journées commencent trop tard pour les enfants. Trop tôt tu veux dire. Je pense que tu dis trop tôt. Mais quand les parents doivent les déposer et commencer leur journée de travail à 9h maxi, ils font comment? Bah c'est ça le problème. En fait, c'est que les temps scolaires sont calculés en fonction de l'emploi du temps des parents, mais pas pour les enfants. C'est exactement ce que dit ce rapport. Les cours doivent durer 45 minutes et plus une heure pour permettre de vraies pauses. Les devoirs à la maison doivent être réduits. La semaine de cours doit être étalée. Ah, il y a Petit Boulby qui dit on a prévu ça. Petit Boulby, ça m'intéresse. Dis-moi tout. Petit Boulby, il a bossé sur la convention citoyenne, les gars. La semaine de cours doit être étalée du primaire jusqu'au lycée sur 5 jours plutôt que sur 4 majoritairement pratiqués actuellement. Les vacances, il faut conserver les 16 semaines annuelles, mais passer de 3 à 2 zones, de 3 à 2 zones, pour respecter une alternance entre 7 semaines de cours et 2 de repos. 7 semaines de cours, 2 de repos. 7 semaines de cours, 2 de repos. Du micro, donc pause déjeuner d'une heure et demie, voilà, au macro création d'un ministère de l'enfance, c'est une prise en charge globale qui est préconisée. Bravo. Et après, concrètement. La Convention le reconnaît, plusieurs de nos propositions figurent déjà dans des rapports ou ont déjà été évoquées depuis de nombreuses années par les professionnels de l'enfance. Mais appeler à la responsabilité des décideurs politiques paraît bien aléatoire, surtout en ces temps d'instabilité maximale et d'économie tous azimuts. Par ailleurs, les conventions citoyennes sur le climat et la fin de vie n'ont pas renversé la table, au point d'interroger sur l'aspect décisionnel de ces agoras. À quoi ça sert? Les citoyens de la Convention veulent y croire. Alors, Petit Boulbi me dit, mais alors comment on fait pour les parents et le temps de travail des parents? Et Petit Boulbi nous dit, on a prévu. En gros, on a prévu l'accueil des jeunes avant, comme cela existe déjà, mais le début des cours est à 9h. Pour éviter que les jeunes qui avaient de temps de trajet important, 40 minutes, doivent arriver trop tôt et leur donner à eux la chance de dormir plus tard. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Désolé, je suis bête à bouffer du foin, je n'ai rien, j'ai pas compris. Mais du coup, il se lève tôt quand même. Donc il en peut plus. Merde, j'ai rien compris. Je suis désolé. Si ton cours commence à 9h, mais que le bus part à 7h et que c'est le solde de la matinée, ça change rien, me dit Lazarette. Tu accueilles ceux qui viennent plus tôt, mais ceux qui peuvent arriver plus tard, c'est OK. Ah! Ouais, ça crée une sacrée inégalité. Donc il y a ceux qui peuvent arriver plus tard. Donc tant mieux pour eux. Il y a ceux qui peuvent pas, et tant pis pour eux alors, c'est ça? Ah ouais. D'accord. Donc il y a un choix. C'est ça. Ok. D'accord, ok. Oui. D'accord, ok, j'ai compris. Pardon. Donc, les citoyens de la Convention veulent y croire. Gaëlle, qui est enseignante dans le Vercors et mère de trois enfants, témoigne, ce rapport est utopiste. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que de proposer de vrais changements? C'est certain qu'il suppose beaucoup d'argent, mais l'utopie est féconde, elle donne des directions. Le contexte budgétaire était dans tous nos esprits, mais il faut se projeter à long terme. La priorité pour certains, c'est vraiment que les cours diminuent en durée, 45 minutes. Bon. Que le temps d'attention soit maximal et que les élèves ont une vraie pause entre deux cours. Ok. Alors, je vous ai mis un article pour dire ce qu'il y avait un petit peu dans ce rapport. J'espère que l'article dit l'essentiel. Je parle sous le contrôle de ceux qui ont participé à cette convention et qui sont dans le chat. Ok, je reçois des SMS sympas, c'est pourquoi? Ah, c'est quelqu'un qui veut travailler avec moi. Oh, les pauvres, s'ils savaient. S'ils savaient. Ça, yo Sam, je me gèle les couilles, je suis au taf, je t'entends pas, mais vas-y, on est là, bisous sous ta fesse gauche, on t'aime. Merci, merci Ragnoc. Moi aussi, je me gèle. Ça caille ici dans le studio. Mais on lutte, on lutte. Alors, un article qui nous présente ce qu'il y a dans ce rapport, et il y a un article qui dit, allez, le truc est à peine sorti, c'était dimanche, qu'il y a déjà une levée de bouclier, selon Le Parisien. Vous avez vu sur Twitch, vous avez les deux journaux concernés. La levée de bouclier contre la semaine de 5 jours à l'école. Il y a déjà des gens qui disent, ah, non, 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 non. La solution avancée par la Convention citoyenne, qui veut notamment mettre en place des activités après 15h30, en lien avec des associations et collectivités, suscite beaucoup de craintes. Et on va voir, parce que les craintes sont peut-être fondées. La proposition phare du rapport, selon Le Parisien, fait déjà polémique. Dans le viseur, sans surprise, l'organisation des rythmes scolaires, ça on le sait, en France, ils sont mal adaptés, c'est ce que disent de nombreux scientifiques, qui insistent sur le manque de sommeil et le stress des enfants. Les enfants, ils sont crevés, les petits, hein, le matin, les ados aussi. Pour améliorer la situation, les citoyens ont par exemple suggéré de démarrer l'école à 9h dans le secondaire, on vient d'en parler. de limiter les cours à 45 minutes pour favoriser la concentration et surtout d'allonger la semaine à 5 jours en incluant le mercredi, hein, de l'élémentaire au lycée. En maternelle, le mercredi après-midi pourrait être optionnel. Selon les participants à la convention, ajouter une journée ou une demi-journée permettrait d'étirer les apprentissages, de réduire le stress, d'améliorer le suivi de chaque enfant, de séquencer la journée avec des cours théoriques le matin, des apprentissages plus pratiques l'après-midi jusqu'à 15h30. Ensuite, en lien avec les collectivités locales et le monde associatif, les écoliers, les collégiens, les lycéens bénéficieraient d'activités sportives. Plus de sport, yes. Culturelles, artistiques, pratiques. Mais, sur le papier c'est cool, la recette ne réjouit pas tout le monde. Loin de là. Nous sommes opposés à cette organisation car elle serait génératrice d'illégalité. On a commencé à mettre le doigt dessus tout à l'heure. C'est ce que dit le syndicat SNES-FSU, qui est le premier syndicat du secondaire quand même. Au collège ou au lycée, la semaine se déroule déjà sur 4,5 ou 5 jours. C'est donc pas ce qui retient notre attention. Mais faisant reposer les activités de l'après-midi sur les collectivités territoriales et les assos, tous les élèves n'auront pas accès à la même qualité. Il y aura des inégalités. Cela se fera en fonction des priorités et des ressources des collectivités. Donc, il y aura les collectivités riches, il y aura les activités super, il y aura d'autres qui ont moins d'argent et les gamins, ils n'ont rien à faire. Voilà. Sa crainte est partagée en élémentaire, où on se souvient bien de la mise en place des temps d'activité périscolaire décidée par Hollande fin 2013 pour proposer des ateliers à tous les enfants. Ça avait engendré des disparités en fonction des territoires, se souvient une syndicaliste. Sans compter que dans certaines zones rurales, il était impossible de trouver suffisamment d'éducateurs disponibles sur un même créneau. Ça a été très dur à mettre en place. À l'époque, les enseignants étaient déjà divisés. Aujourd'hui, si les politiques veulent aller sur le terrain, ce sera très compliqué parce que la profession ne suivra pas. Pas question pour les enseignants de l'élémentaire de laisser les associations gérer les activités culturelles ou sportives. Quand nous emmenons les enfants voir un spectacle, on le travaille en classe avant et après. Hein, on peut faire des passerelles entre le français et l'histoire, par exemple, une association ne fera pas ça. Mais ça n'est pas tout. Les enseignants de l'élémentaire ne seraient pas prêts, selon elle, à travailler 5 jours alors qu'ils gèrent majoritairement leur classe sur 4 jours actuellement. Même si cette journée ou demi-journée supplémentaire se fait à horaire constant, parce que l'école terminera plus tôt pour les enseignants, ça engendrera du temps de travail supplémentaire, rendez-vous informels, gestion des temps intermédiaires. Ce serait très mal accueilli par les profs. C'est justement ce que réclament les parents d'élèves, des financements à la hauteur, plutôt favorables à la semaine de 4,5 jours au lieu de 5. La FCPE, la Fédération des parents d'élèves, reste malgré tout ouverte au débat. En fait, ça demande des moyens, quoi. Toujours les moyens. Et les parents, si certains jours la fin des cours intervient à 15h30, ils devront récupérer leurs enfants plus tôt. Quand tu bosses, comment tu récupères un enfant à 15h30, quoi. On sait que ce sera bien souvent à la charge des mères plutôt que des pères. Hein, il ne faut pas non plus qu'une telle mesure creuse encore plus l'inégalité entre les femmes et les hommes. Vraie question. Vraie question. Vous voyez, les interrogations, elles sont pas nazes non plus. Hein. Donc, manque de moyens, désorganisation de la vie professionnelle des parents. Ça s'entend quand même. Vous en pensez quoi, les beaux gosses ? Roi Arthur dit, comme au Japon, un petit chapeau jaune et ça rentre tout seul à la maison. Rémi dit, le périscolaire peut pallier à ça. Ok, ouais. Ok. Mais ça pose la question des moyens. Hein, Lazaret 59 me dit le fameux modèle allemand d'organisation du temps est aussi remis en cause, favorisant un job à temps partiel pour l'un des parents, qui est souvent la femme, hein, pour qu'il puisse récupérer les enfants tout en incitant l'autre à faire des heures sup, avec souvent une maman ayant une demi-carrière, donc une retraite toute petite. C'est pas inintéressant. Il y a De Rodel qui dit qu'il parle beaucoup d'inégalité, mais c'est plus la peur du changement qui ressort. Kat 17 me dit, je prends la discussion en cours, je viens de commencer ma pause déjeuner, je suis enseignante dans le primaire. Je suis tout à fait d'accord pour passer à 4 jours et demi, voire 5 jours, mais je ne suis pas sûr que la société soit prête à s'adapter à ce rythme de l'enfant. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Julien. Digisphère, je pense qu'effectivement, c'est pas en faisant des coupes budgétaires gargantuesques depuis 10 ans dans l'éducation qu'on se donne de l'espace pour réfléchir à des grandes réformes. Pour développer, au Charroux, je pense, fait référence à toutes les activités périscolaires qui seraient développées à cette occasion. Pour développer, au Charroux me dit, les différentes formes d'intelligence de nos enfants, ce serait top, à voir comment ça peut s'appliquer concrètement. Merci, petit Boulbi, désolé, hein, je te mets à rude épreuve, là. Petit Boulbi, qui a participé au rapport, me dit, mais je trouve que les médias limitent énormément le rapport. Si vous voulez, il y a la lecture du manifeste qui est faite par les citoyens, je peux vous retrouver ça aussi. Je pense que le manifeste, vous y avez accès, quoi. Dans le rapport, me dit Petit Boulbi aussi, on demande moins d'élèves dans les classes. Merci, Petit Boulbi. Ah, pour répondre au bus tout à l'heure. Non mais l'école commence à 9h, donc du coup le bus, au lieu de partir à 7h, il partira à 8h, donc les enfants dormiraient plus. Ok, excuse-moi petit Boulbi. Je suis allé voir ton historique pour voir tes explications. Imaginons que les enfants rentrent à l'heure prévue, ils feront quoi? Des écrans, ils seront seuls? Bah non, je pense qu'il y aura du périscolaire du coup. Il y aura du périscolaire du coup. Hein? C'est ça, hein? J'ai bien compris. Moins d'enfants par classe, c'est déjà en cours avec la baisse de la natalité. C'est faux, Joliot, puisqu'on est en train de parallèlement de supprimer des postes d'enseignants. Donc, on ferme des classes en fait. Face à la baisse de la natalité en France, du coup, on est en train de fermer des classes. Donc ce serait formidable hein, que du coup la baisse de la natalité, avec un nombre de classes et de profs constants, baisserait le nombre d'enfants par classe. Mais comme il n'y a plus de sous nulle part, on profite de cette baisse de natalité pour fermer des classes. Je n'invente pas ça. Hein. Je n'invente pas ça. Bah, du coup, il y a toujours autant d'enfants par classe. Ah, vous avez quelqu'un à épingler le rapport, c'est super, vous êtes formidable. C'est ça, du périscolaire, du sport, etc. Je vous lis. Voilà, petit volume dit oui, périscolaire prévu. On a aussi parlé de grand-parentalité et un million de choses. Je vous cherche la vidéo de présentation du texte. Bon, on a déjà épinglé le rapport en haut. Sur Twitch, on peut rien épingler sur TikTok. Mais on vous l'a épinglé sur Twitch. Ok. Est-ce que ça pourrait ressembler à maths français le matin et art et sport l'après-midi? Oui, Kitani, c'est un peu l'idée, je crois. Un peu d'optimisme dans le message d'Oubiane Kenobit. En vrai, je trouve qu'on vit dans une période vachement intéressante et charnière où on commence à voir les limites du système actuel. En tout cas, qu'on soit à une époque charnière sur bien des choses, ça c'est sûr, oui. Ah, on peut épingler, mais pas de lien. C'est pas très bien fait l'outil TikTok de live. Hein. Eh, les devs de l'outil TikTok live, faut bosser, les gars. Hein. Ça va pas du tout votre truc. Hein. les amis, on va finir en beauté. On va finir en beauté. Avec de la techno. Avec de la techno. La techno médiévale. Déjà ? On est déjà à la fin de la revue de presse, là ? C'est quoi cette revue de presse ultra courte ? C'est fou, ça. Voilà. J'ai un Teams à 13h. On est bien. J'ai un Teams à 13h. Ça tombe bien, j'ai un Teams à 13h. Donc, par contre, je vais aller faire pipi. Hein. Excusez-moi. Donc, je vous mets. Je ne change pas le sommaire pour l'instant. Voilà. Vous me laissez faire pipi ? Ouais, ça fait 2h25. Là, j'ai bu café sur café, là. J'en ai pour 10 secondes. Et après, je vous mets de la techno médiévale. On va aller écouter de la techno médiévale. Avec monsieur, notamment monsieur Perceval. Et bien sûr, on va se laver les mains. Bougez pas, les beaux gosses. Et hop! Je peux pas manger ce matin. Putain, j'ai faim! Non, c'est impossible. Si. Les toilettes sont à 1 mètre. Ce studio est pensé pour l'efficacité, pour l'efficience. Les toilettes sont à 1 mètre. J'ai une grosse pression. Voilà, j'ai un corps qui fonctionne très très bien. Voilà, et je me suis lavé les mains. Par contre, j'ai très très faim. Voilà. Donc oui, c'est possible. Mesdames et messieurs, avec notre nouveau sommaire, voilà, merci aux devs, passons à la techno médiévale. Pourquoi te lever si c'est 1 mètre ? Non, parce que j'ai de la pression, mais pas à ce point-là quand même. Bim, bim, regardez, quelle heure il est ? 12h34, qu'est-ce qui est écrit sur le sommaire ? 12h34, c'est automatique. C'est une dinguerie, c'est tout. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je crois que je l'ai déjà dit. Alors, c'est quoi cette histoire de techno médiéval ? Merci Roctali, merci tout petit Dams, merci. Merci à tous. C'est quoi ce sondage ? Samuel a-t-il eu le temps de faire pipi ? Il ment 79%. Qu'est-ce que c'est que ce sondage ? Qu'est-ce que vous inventez encore ? Qu'est-ce que vous inventez ? La techno de l'an 1000. Voilà. La techno médiévale. Voilà. Il paraît que c'est top. Moi, je découvre ça dans Libération. Alors, c'est Libération de samedi. C'est pas Libération de ce matin, mais je sais pas, je lisais Libé ce week-end. Je me suis dit, je vais leur parler de ce truc-là. C'est assez étonnant. Il s'appelle Perceval. Bardix. Roland Cristal. Et incarne l'une des tendances les plus improbables du moment, mélangeant art de techno et musique traditionnelle d'inspiration celte et médiévale. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est fascinant. On va écouter un extrait, bien sûr, tout à l'heure. Hein. Mais d'abord, on lit. Une curiosité qui s'est transformée en phénomène, ça cartonne. Ça cartonne. Et je vois que vous connaissez. Au sein de l'agence de booking Wart, qui gère notamment les tournées de Jeanne Haddad, Compromat ou Zao de Sagazan, difficile de ne pas le remarquer, avec son casque, ses tresses et ses braies, il dénoterait de toute façon n'importe où en dehors du parc Astérix. On ne parle même pas de sa musique, cavalcade techno à 160 BPM, traversée de flûtes et de cornemuses celtiques, dont on peut dire assez rapidement si on aime ou si on fuit. Hein. Mais pour Joran Lecor, directeur artistique chez Wart, Bardix, le Gaulois, Bardix, dénote surtout par l'engouement qu'il provoque. D'ordinaire, quand on annonce une collab avec un nouvel artiste, il faut déjà que son nom circule, ensuite on peut se mettre au travail. Avec Bardix, instantanément, on a eu une quinzaine de propositions de festival. Du jamais vu. Voilà. Il ne s'en étonne pas non plus complètement. Bardix n'est pas le seul énergumène à proposer cette mixture de bastonnades électroniques et de sonorités moyenâgeuses. Et le héros de cette scène se nomme Perceval. Avec cette tenue singulière, un home Je crois que c'est lui qu'on voit là. C'est lui qu'on voit là ou pas? Un kilt, et le plus souvent un maillot de foot, et sa musique qui l'est encore plus. Perceval a débarqué sur TikTok fin 2023 et s'est rapidement frayé un chemin grâce à des vidéos accrocheuses. Chez Allo Floride, l'agence qui le manage et le fait tourner, son profil de chevalier techno a d'abord fait sourire avant d'être pris très au sérieux en voyant les ventes de tickets s'affoler. Ça cartonne, mesdames et messieurs. C'est quelque chose qui ne correspond à aucun code actuel entre la hard techno et de la musique traditionnelle populaire, dit un spécialiste du sujet. On se demandait comment la profession et le public allaient prendre cette nouvelle tendance. Merci Kayoshu. On l'a testé avec l'Elysée Montmartre en janvier, qu'on a rempli. Ensuite, il a joué à Madame Loyal à Lille. En voyant des gens venir déguisés en chevalier alors qu'il était 4 heures du mat et que ça faisait 6 ou 7 heures qu'il était sur le festival, on s'est dit qu'il se passait vraiment quelque chose.
C'est génial.
En tout cas, vous me dites que c'est bien. Hein. Je vous lis. Hein. Voilà, ça cartonne. L'artiste, derrière son home de chevalier, conserve l'anonymat et cultive le mystère. C'est qui en vrai? On sait que c'est qui le gars. C'est mystérieux, on ne sait pas qui c'est. Lui-même avoue n'avoir jamais imaginé un pareil succès, avouant avoir produit son premier son de techno médiéval il y a 5 ans pour rigoler entre potes, inspiré par ses racines bretonnes et l'émergence du courant bardcore. Ça se trouve, c'est moi, racine bretonne. Merci Moussak pour le raid. Ça se trouve, c'est moi. On ne sait pas. C'est peut-être Alderiat, c'est peut-être Aldé. Voilà. Il disait, là j'ai saisi l'opportunité de créer un personnage fort, identifiable, bien qu'un peu absurde. Je trouvais ça drôle, un chevalier qui danse en jouant de la musique. Bon. Bardix aussi explique à Libé comment est né tout ça. C'est drôle. On va l'écouter. Hein. Parce qu'en fait, moi, cet article, c'est surtout pour ça. C'est pour enrichir ma culture, quoi. Ça cartonne, quoi. Bon, on va écouter. Let's go. Alors, Kenako, alors qu'est-ce que je tape? Je vais aller sur YouTube. Comment il s'appelle le monsieur? Perceval. J'ai Perceval Chance Loubi. Ça va pas être ça. Perceval Techno, ça va être ça plutôt. Perceval, j'ai sa chaîne YouTube. Let's go. Dansons la birbandoule. Perceval au paléo. Tuto danse techno médiévale. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Machu Picchu, c'est bien Machu Picchu? Ça a l'air drôle. Je vous le mets. Ok. TikTok, je vous le mets aussi. TikTok, je vous enlève ça. Et je vous mets ça. Ok. On écoute? Ok. Alors.
Machu Picchu. Ah voilà. Machu Picchu. Ah voilà.
C'est juste un short, ça, ouais, c'est pas tout, ça. Ah oui, c'est des shorts, on s'en fout, les shorts. Attends, on va écouter. Ah oui, il y en a des. Là, c'est des shorts, ça. Attends, on va aller sur sa chaîne, attends. Attends. 48. Waouh, c'est quoi ça? 600 000 vues. Waouh. Attention les chaises. C'est quoi ce truc? 1 million 7. Ah, Machu Picchu, 1,7 million de vues.
Machu Picchu.
Ok. Ok, attends, là, j'ai envie d'en écouter d'autres, moi. Merci Philippe Berger pour le raid adorable. Attends, on va écouter ça. Attention les chaises. Kezako, ça. C'est des mêmes internet. Ok. J'en pense quoi? J'en pense que c'est marrant. En vrai, je pense que je passerai pas ma nuit dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? On s'en fait une petite dernière? Pas mal ça, pas mal ça. Comment ça la musique de la soupe aux choux? Mais non. Ok. Ok, bon ben voilà, c'est de la techno médiévale et ça cartonne. Voilà, merci Libé, j'ai appris un truc. J'ai appris un truc. Ami, merci pour ce matin, la revue de presse est tous les jours du lundi au vendredi, 9h midi, 10h, 13h, ça dépend, voilà. Et ce sera... Ah ouais, toute cette semaine, il n'y aura pas d'exception, ce sera tous les jours. Ouais. Sur TikTok, en live, sur Twitch, en live, en replay... sur Twitch pour les abonnés, en replay sur YouTube à J+1 pour tout le monde, en podcast audio le même jour à partir de 15-16h, mis en ligne par Vincent, je vais lui envoyer les tester dans un instant. Voilà. Et puis Skyrim cet après-midi, Skyrim ce soir, je pense. Skyrim ce soir. Hier soir, le GOAT Alderiat nous a fait découvrir Skyrim dans Ça me plaît. C'est en replay aussi. Et ce soir, on va faire du Skyrim. Voilà. Cet après-midi, non, je vais plutôt bosser et puis faire du sport. C'est important le sport. Comme ça, c'est que ça, je peux manger plus. En ce moment, j'ai très envie de gras et de sucre. Ami TikTok, je vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Des bisous. Et vous êtes où? Vous êtes là. Et je vous... Je ne vois même pas où vous êtes. Vous êtes là. 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 Et je vous retrouve demain matin. Voilà. Parce que la vue de presse, c'est sur TikTok. Mais c'est mon seul stream pour le gaming. Il faudra venir sur Twitch. Merci les amis. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez aussi. Merci pour la bonne ambiance que vous mettez. Ah ça, je vous ai retrouvé. Bonne ambiance que vous mettez dans le chat. Et puis, bonne semaine aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'en cette période hivernale, j'ai pas parlé de ce message ce matin. Putain, pourquoi je vous ai mis l'écran là? En cette période hivernale, oui, on a le droit de se faire plaisir un petit peu au niveau du gras. Moi, j'ai une envie de gras en ce moment, de sucre. Ça va pas du tout. Je mange que des cochons steak. Autorisons-nous quelques petits écarts. Avec un petit peu de sport derrière. Et puis, ça ira bien. Amis de TikTok, des bisous. Amis de Twitch, on va faire un raid. Hop, j'arrête le live sur TikTok. Ah, en ce moment, je mange gras, j'ai une envie de gras, j'ai faim. Ami de Twitch, qui est en live actuellement? Est-ce que... Ok, qui est en live? Bah, Aldé. Eh ben, Aldé est en live, mesdames et messieurs. Alderiat, qui était avec nous hier soir, qui a fait de la route hier, pour nous rejoindre dans Simplay, qui nous a fait découvrir... Skyrim, auquel on jouera ce soir, parce que j'ai beaucoup aimé cette découverte, est en live actuellement. Il est, Aldé, il est sur Monsters Are What? Coming. Voilà. Non, c'est pas AD, c'est Aldé, c'est Alderiat. C'est parti. C'est pour le remercier encore du super live d'hier soir. Alderiat. Allez, c'est parti. Merci encore. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve ce soir à partir de 20h30, 21h pour du Skyrim. Voilà, et là, on va retrouver l'ami Aldé, Alderiat. Prenez soin de vous. Merci encore. Merci pour ce matin. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Ça part dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs.
Liste.